Vous allez entendre le sermon prêché par notre précieux frère et prophète William Marion Branham, prêché en 1963. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Merci, frère Neville. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, mes amis. Je considère vraiment comme l'un des plus grands moments de ma vie d'être de nouveau dans le tabernacle ce matin, de voir cette belle architecture et l'ordre qui règne parmi les enfants de Dieu assis dans sa maison aujourd'hui. J'ai été vraiment étonné quand je suis arrivé hier et que j'ai vu l'aspect de ce bâtiment. Je ne le saurais jamais imaginer comme ça. Quand j'ai vu les plans qu'ils en avaient dressés, tout ce que j'avais vu, c'est une petite pièce en plus sur le côté, mais maintenant je découvre un endroit magnifique. Et nous sommes reconnaissants au Tout-Puissant pour cet endroit magnifique. Et nous sommes, ce matin, je vous apporte les salutations de mon épouse et de mes enfants qui aimeraient bien être ici en ce moment pour le service de dédicace et pour cette semaine de consécration à Christ. Seulement, les enfants sont à l'école et c'est difficile de se libérer. Et leur nostalgie en ce qui concerne la maison s'est un peu effacée. Mais nos sentiments envers vous ne s'effaceront jamais. Ces choses-là ne s'effacent pas. On peut avoir des amis, et j'apprécie les amis. Partout. Mais les vieux amis, c'est spécial. Quels que soient les nouveaux amis qu'on peut se faire, ce ne sera jamais les vieux. Peu importe l'endroit où je pourrais me trouver un jour, ce lieu-ci me sera toujours sacré. En effet, il y a une trentaine d'années, dans le lit vaseux d'un étang, j'ai consacré ce terrain à Jésus-Christ, alors qu'il n'était qu'un lit de vase. Tout ça ici, c'était un étang. C'est pour cette raison que la rue n'est pas droite, là. La route devait faire un détour pour contourner l'étang qui se trouvait ici. Et ici, autrefois, il y avait des lys d'étang qui poussaient. Et le lys est une fleur très étrange. Bien qu'il naisse dans la boue, il doit se frayer un chemin à travers la boue, puis à travers l'eau et la vase pour se retrouver au-dessus et montrer sa beauté. Et je pense ce matin que c'est bien ce qui est arrivé ici. Que depuis l'époque, un petit lys d'étang a poussé. Et quand il est arrivé au-dessus de l'eau, il a déployé ses ailes. Ses petites pétales se sont épanouies et il a reflété le lys de la vallée. Puisse-t-il durer longtemps? Que ce soit une maison entièrement consacrée à Dieu. Le tabernacle lui-même a été consacré en 1933. Mais nous avons pensé que ce matin, ce serait une très bonne chose d'avoir de nouveau juste un petit service de dédicace, et ce, spécialement pour les personnes qui, par leur amour et leur dévouement pour Christ, ont rendu tout cela possible. Et je veux remercier chacun de vous, sans exception, pour vos offrandes et pour tout ce que vous avez fait pour que cette Église puisse être consacrée à Christ. Et j'apprécie énormément, et j'en remercie l'Assemblée, de pouvoir prononcer ces paroles de reconnaissance envers nos braves frères de cette Église qui se sont dévoués à la tâche. Frère Bankswood, notre noble frère. Frère Roy Robinson, notre noble frère. Et beaucoup d'autres encore qui, avec désintéressement et simplicité de cœur, ont passé des mois aux travaux de construction qui ont été faits ici. Ont surveillé les travaux pour que tout soit fait comme il faut. Et quand je suis entré et que j'ai vu cette chaire, le genre dont j'ai toujours rêvé toute ma vie, Frère Woods savait ce que j'aimais. Il n'a jamais dit qu'il la construirait, mais il l'a construite. Et j'ai examiné le bâtiment, la façon dont il est construit. C'est simplement, oh, c'est superbe. Il n'y a vraiment pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Il n'y a vraiment aucun moyen de l'exprimer, vous voyez. Mais Dieu comprend. Et puissiez-vous être récompensés, chacun de vous, pour vos contributions et pour tout ce que vous avez fait pour faire de cet endroit ce qu'il est, comme bâtiment, une maison pour le Seigneur. Et maintenant, j'aimerais dire ces mots. Le bâtiment, là, si beau soit-il, à l'intérieur, et à l'extérieur, mon beau-frère Junior Weber s'est occupé de la maçonnerie. Je ne vois pas comment ça aurait pu être mieux fait. C'est un travail parfait. Il y a un autre frère ici que je n'ai jamais rencontré. Il a installé la sonorisation. Mais j'ai remarqué que même dans un bâtiment plat comme celui-ci, il n'y a pas d'écho du tout. Ils ont été placés ici dans le plafond, à différents endroits. Peu importe où je suis, c'est partout pareil, vous voyez? Et chaque pièce est construite avec les haut-parleurs encastrés, et vous pouvez régler le son comme vous voulez. Je crois que c'est la main du Dieu Tout-Puissant qui a fait ces choses. Alors, si donc, notre Seigneur nous a donné un bâtiment pour que nous puissions l'y adorer. Et ce, depuis déjà une bonne trentaine d'années, nous avons commencé avec un sol de terre battu, de sciure de bois, et nous étions assis ici près de vieux poêles à charbon. Et l'entrepreneur, Frère Wood, l'un d'eux avec Frère Robinson, il me disait que là où il y avait les piliers et où ces vieux poêles étaient installés, les madriers qui passaient par là, ils avaient pris feu et brûlé sur deux ou trois pieds. Pourquoi il n'a pas brûlé complètement? C'est Dieu seul qui l'en a gardé. Et puis quand ça a brûlé, vu que tout le poids du tabernacle reposait là-dessus, comment il se fait qu'il ne se soit pas effondré? C'est seulement la main de Dieu. Maintenant, la charpente est en acier. Et le tout repose sur le sol, construit solidement. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste, d'être tellement reconnaissant à Dieu que qu'ici, ce ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais que tous ceux qui y entrent puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus-Christ dans chaque personne qui entrera. Que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur, un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'Église. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Maintenant, au service de dédicace, quand la pierre angulaire originelle a été posée, une glorieuse vision a été donnée. Et le texte en a été mis dans la pierre angulaire le matin où je l'ai consacré. Et vous, vous êtes peut-être demandé il y a quelques minutes pourquoi j'ai été si long avant de sortir. Mon premier devoir, quand je suis entré dans la nouvelle église, a été de marier un jeune homme et une jeune femme qui étaient dans mon bureau. Que ce soit un type de ce que je serai un serviteur fidèle à Christ pour préparer une épouse à la cérémonie de ce jour-là. Et maintenant, faisons comme nous avions fait au commencement, quand nous avons commencé à la première dédicace de l'Église. Je n'étais qu'un jeune homme, et j'avais peut-être 21, 22 ans, quand nous avons posé la pierre angulaire. C'est avant même que je sois marié. Et j'ai toujours désiré voir un lieu vraiment en ordre, pour que Dieu puisse y adorer, vous voyez, avec son peuple. Et nous pouvons seulement y arriver, non pas par un beau bâtiment, mais par une vie consacrée. C'est le seul moyen pour nous d'y arriver. Et maintenant, avant que nous passions à la dédicace, à la prière de dédicace, que nous lisions quelques passages des Écritures et que nous reconsacrions l'Église à Dieu, et ensuite j'ai un message d'évangélisation pour ce matin qui se rattachera au message qui suivra. Et pour ce soir, je voudrais prendre le chapitre 5 de l'Apocalypse qui relie les sept âges de l'Église aux sept sceaux. Ensuite, nous prendrons, lundi soir, ce sera le cavalier sur le cheval blanc. Mardi soir, le cavalier sur le cheval noir. Et ainsi de suite, les quatre cavaliers. Ensuite, ce sera l'ouverture du sixième sceau. Et puis dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, nous verrons plus tard, pour nous annoncerons plus tard, peut-être pour dimanche matin prochain, une réunion de prière pour les malades dans la salle. Ensuite, dimanche soir, nous terminerons avec que le Seigneur nous aide à ouvrir le septième sceau, qui ne comprend qu'un court verset. Et voici ce qui est dit. Il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Par ce silence. Je ne sais pas ce que les sceaux signifient. Je suis au bout de mon rouleau. Je ne sais pas plus quoi dire à leur sujet que peut-être certains d'entre vous ce matin. Nous avons des idées ecclésiastiques qui ont été mises par des hommes, mais ça ne pourra jamais être juste. Et pour le voir, il faut que ce soit donné par inspiration. Il le faut. Dieu lui-même est le seul qui puisse le faire, l'agneau. Et ce soir, on verra le livre de la rédemption. Et donc, ceci dit, la raison pour laquelle je n'annonce pas de réunion de prière pour les malades et ainsi de suite, c'est parce que je loge chez des amis et je consacre chaque minute de mon temps à l'étude et à la prière. Et vous êtes au courant de la vision que j'ai eue juste avant de partir pour l'Ouest, de ces sept anges qui sont arrivés en volant. Alors, vous comprendrez un peu plus tard. Donc, maintenant, dans le bâtiment, je pense que nous devrions, puisqu'il a été consacré ou qu'il sera consacré dans quelques minutes, à l'adoration de Dieu. Nous devrions faire en sorte qu'il le reste. On ne devrait jamais acheter ni vendre dans le bâtiment. On ne devrait jamais faire de commerce dans la salle ici. Cela ne devrait jamais se faire ici. Par exemple, de permettre à des prédicateurs de venir vendre des livres et tout. Peu importe ce que c'est, il y aura d'autres endroits pour ça. En effet, on ne devrait ni acheter ni vendre dans la maison de notre Seigneur. Ça devrait être un lieu d'adoration, saint, consacré à cet effet. Vous voyez? Or, il nous a donné un beau bâtiment. Consacrons-le lui et consacrons-nous aussi à lui. Et là, ceci peut sembler un peu sévère, mais ce n'est pas un lieu de rencontre. C'est un lieu d'adoration. On ne devrait jamais même chuchoter un seul mot en dehors de l'adoration. les uns aux autres ici à l'intérieur, à moins que ce soit absolument nécessaire. Voyez, on ne devrait jamais s'attrouper. On ne devrait jamais courir dans la salle, ni laisser nos enfants courir dans la salle. Alors, de faire comme ça, puisque c'est comme ça que nous avons pensé faire il n'y a pas longtemps, nous l'avons construit de façon à régler tous ces points. Maintenant, nous avons établi ça. Ici, naturellement, beaucoup ne sont pas d'ici. Les gens du tabernacle sont déjà au courant que ce bâtiment va être consacré au service du Tout-Puissant. Par conséquent, en nous consacrant nous-mêmes, souvenons-nous que quand nous entrons dans ce sanctuaire, nous devons garder le silence entre nous et adorer Dieu. Si nous voulons nous rencontrer, il y a des endroits où nous pouvons nous rencontrer, entre nous comme ça. Mais il ne faut jamais se promener dans la salle et qu'on ne s'entende plus penser ici, que quelqu'un entre et qu'il ne sait vraiment pas quoi faire, vous voyez, tant il y a de bruit et tout. C'est tout simplement humain et j'ai vu tellement de ça dans les églises et quand j'ai été réellement peiné. En effet, nous ne venons pas dans le sanctuaire du Seigneur pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons ici pour adorer Dieu. Ensuite, nous rentrons chez nous. Ce sanctuaire est consacré à l'adoration. Quand dehors, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, à condition que ce soit juste et saint. Rendez-vous, visite dans vos maisons, rencontrez-vous à différents endroits. Seulement, quand vous passez cette porte, gardez le silence. Vous venez ici pour lui parler à lui, voyez, et pour lui donner l'occasion de vous répondre. Le problème, c'est qu'on parle trop et qu'on n'écoute pas assez. Alors, quand nous venons ici, attendons-nous à lui. Maintenant, dans l'ancien tabernacle, il n'y a peut-être pas une seule personne ici ce matin qui était le jour de la dédicace quand le commandant Ulrich est venu jouer de la musique. Et je me suis tenu ici derrière trois croix pour consacrer le bâtiment. Je ne permettais à personne, ceux qui s'occupaient de l'ordre se tenaient à la porte pour voir à ce que personne ne parle. Quand vous aviez fini de parler à l'extérieur, vous entriez. Si vous en aviez envie, sans faire de bruit, vous veniez à l'autel et vous priez sans faire de bruit. Vous retourniez à votre place et vous ouvriez la Bible. Ce que votre voisin faisait, ça le regardait. Vous n'aviez rien à dire. Si vous aviez affaire à lui, vous disiez, « Je le verrai dehors. Je suis ici pour adorer le Seigneur. » Vous lisez sa parole et vous restiez assis tranquillement. Et la musique, Sir Gertie, je ne sais pas si elle est ici ou pas ce matin, Sir Gibbs, le vieux piano, je pense qu'il était là dans le coin, si je me souviens bien, et elle jouait doucement. À la croix où mourut mon sauveur, de la musique très douce et mélodieuse, et alors jusqu'à l'heure de la réunion, alors le conducteur de chant se levait pour diriger l'assemblée dans deux ou trois cantiques. Ensuite, s'il avait un solo intéressant, il le chantait, mais ce n'était jamais quelque chose de déplacé. Après, la musique jouait sans arrêt. Et en entendant ça, je comprenais que c'était le moment pour moi de venir. Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui sont en prière et qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes sûr de recevoir quelque chose du ciel. Il n'y a pas à sortir de là. Rien ne peut l'empêcher. Mais si vous entrez au milieu de la confusion, alors vous êtes tellement désorienté et l'esprit est attristé et nous ne voulons pas de ça. Non, nous voulons venir ici pour adorer. Nous avons des foyers confortables. Je vais parler de ça dans un instant et ainsi de suite. À la maison où nous allons voir nos amis, où nous amenons ici, c'est la maison du Seigneur. Maintenant, il y a les petits-enfants là, les petits bébés. Eux, ils ne savent pas faire autrement. Pour eux, le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est de pleurer pour l'avoir. Parfois, ils veulent un peu d'eau, parfois, ils ont besoin de soins. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons réservé une pièce pour ça. Sur la liste, on l'a surnommée la salle des pleurs. Elle se trouve juste en face de moi. Autrement dit, c'est là que les mamans peuvent amener leur bébé. Or, peut-être que moi, ça ne me dérange pas vraiment ici en chair. Peut-être que je ne le remarquerai même pas à cause de l'onction. Mais il y en a d'autres qui sont assis tout près et que ça dérange, vous voyez. Ils viennent ici pour suivre le service. Alors, les mamans, votre petit bébé qui se met à pleurnicher, vous n'y pouvez rien. Mais oui, bien sûr, vous faites bien, vous devriez l'amener. Une vraie mère veut amener son bébé à l'église et c'est la bonne chose à faire. Alors, nous avons une pièce là d'où vous pouvez voir tous les coins du bâtiment, toute la salle, et avec un haut-parleur dont vous pouvez régler le volume comme vous voulez, et des petites toilettes au bout, un lavabo et tout ce qu'il faut pour faciliter la tâche de la mère. Il y a des chaises et tout, vous pouvez vous asseoir, un endroit pour changer votre bébé au besoin, et avec tout ce qu'il faut, tout a été préparé. Et puis, souvent, les jeunes adolescents, et parfois même les adultes, vont se mettre à, vous savez, les jeunes vont parfois se passer des billets ou chercher à faire rire ou quelque chose quand ils sont à l'église. Vous êtes en âge d'avoir un peu plus de bon sens, voyez. Vous devriez avoir plus de bon sens, voyez. Vous ne devriez pas venir ici. Si vous attendez un jour à devenir véritablement un homme, à élever une famille pour le royaume de Dieu, alors commencez donc par le commencement. Voyez, et agissez comme il faut et faites comme il faut. Maintenant, ceux qui s'occupent de l'ordre se tiennent au coin de la salle et tout. Et s'il y a du désordre, ils ont reçu le mandat et c'est leur devoir. Et les administrateurs s'assoient ici à l'avant au cas où quelqu'un se conduirait mal. Ils ont reçu l'ordre de demander à cette personne de rester tranquille. Aussi, ces gens n'ont pas le respect qu'il faut. Il vaudrait mieux qu'ils laissent leur place à quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter. Il y a quelqu'un qui est venu pour ça, pour écouter. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour écouter la parole du Seigneur. Alors, tout le monde veut l'écouter, et ça, en toute tranquillité. En toute tranquillité, ça veut dire sans bavardage et sans désordre. Bien sûr, on s'attend à ce que quelqu'un se mette à adorer le Seigneur. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pour ça que vous êtes ici, pour adorer le Seigneur. Alors, si vous en avez envie, simplement de louer Dieu ou de crier, eh bien, allez-y donc, voyez, parce que vous êtes ici pour ça, voyez, mais pour adorer le Seigneur, l'adorer à votre manière à vous. Mais n'allez pas me dire que vous adorez le Seigneur quand vous parlez, que vous passez des billets, que vous incitez quelqu'un d'autre à s'éloigner de l'adoration du Seigneur, vous voyez. Nous sommes donc d'avis que c'est mal, ça. Et nous voulons que ce soit une résolution officielle dans notre Église, que dans notre Assemblée, ce bâtiment, cette Église sera consacré au royaume de Dieu et à la prédication de la parole. Priez, adorez. Voilà la raison pour laquelle vous devriez venir ici, pour adorer, donc. Et alors, une autre chose, quand la réunion est terminée, d'habitude, les gens dans les églises, je ne pense pas que c'est comme ça ici, parce que je ne suis jamais à ce moment-là, vous voyez, parce que je m'en vais d'habitude, mais quand je prêche d'autres services, l'onction vient, les visions apparaissent, je m'épuise, alors je me retire dans le bureau, et soit Billy ou quelqu'un de ceux qui sont là me ramène à la maison pour que je puisse me reposer un peu jusqu'à ce que je m'en remette, parce que ça met mes nerfs à rude épreuve. Mais n'empêche que j'ai vu des églises où on permettait aux enfants de courir partout dans le sanctuaire et les adultes étaient là à s'interpeller d'un bout à l'autre de la salle. Voilà un bon moyen de démolir la réunion qui est prévue pour le soir ou pour telle heure, voyez. Aussitôt que la réunion est terminée, sortez de la salle. Alors, l'adoration est terminée. À ce moment-là, sortez, parlez ensemble et faites ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose à discuter avec quelqu'un, que vous avez besoin de les voir, alors allez avec eux, allez chez eux comme vous le voulez, mais ne le faites pas dans la salle. Consacrons-la à Dieu, voyez. Ici, c'est son lieu de rencontre à lui. Là, nous le rencontrons, lui, voyez. Et bien entendu, c'est du sanctuaire que la loi est apportée. Alors, je crois que c'est ça qui serait agréable à notre Père céleste. Et puis, quand vous venez et que vous découvrez que des dons commencent à se manifester parmi vous, maintenant, d'habitude, j'espère bien que ça ne se passera jamais comme ça ici, mais quand des gens ont une nouvelle église, tout à coup, l'Assemblée devient formaliste. Vous ne voulez pas de ça, jamais. Après tout, ici, c'est un lieu d'adoration. C'est la maison du Seigneur. Et si des dons spirituels commencent à venir parmi vous, j'ai entendu dire que depuis mon départ, il y a des gens de différentes régions du pays qui sont venus s'établir ici. Je suis bien content de ça. J'en suis reconnaissant à Dieu. Je crois que le matin de la dédicace, quand j'ai posé la pierre angulaire, là, alors que j'étais un jeune homme, j'ai prié pour qu'elle soit encore à la venue de Jésus-Christ. Je l'ai fait alors que j'étais endetté de milliers de dollars et ils. On pouvait recueillir une offrande dans une assemblée de l'importance de celle-ci et on récoltait 30 ou 40 cents. Et nos paiements s'élevaient à environ 150 ou 200 $ par mois. Comment est-ce que j'aurais pu y arriver? Et je travaillais et je savais que je rembourserais. Et j'ai exercé mon ministère de pasteur pendant 17 ans sans perdre un sou. Sans prendre un sou, au contraire, tout ce que j'avais moi-même, à part mon nécessaire et tout ce qui était déposé dans la petite boîte à l'arrière, était consacré au royaume de Dieu. Et les gens ont prophétisé et prédit qu'en moins d'un an, ici, ce serait un garage. Une fois, Satan a essayé de nous l'enlever par faute, par fraude, dans un procès. Un homme prétendait s'être blessé au pied en travaillant ici. Il n'y avait rien fait à ce sujet et après, il a engagé des poursuites et voulait nous enlever le tabernacle. Pendant des semaines, je suis resté ferme à mon poste et malgré tous les malentendus, toutes les prédictions et tout ce qui a été dit, aujourd'hui, elle est encore là, l'une des plus belles salles, des plus belles églises des États-Unis. C'est vrai. À partir d'ici, la parole du Dieu vivant a fait le tour du monde, vous voyez? Le tour du monde. Et elle n'arrête pas de former un cercle autour du globe en visitant chaque nation sous le ciel à notre connaissance tout autour du monde. Soyons-en reconnaissants. Ayons de la gratitude pour ça. Et maintenant que nous avons un endroit où on est bien installé, un toit au-dessus de notre tête, une belle église bien propre pour venir s'asseoir, consacrons-nous donc de nouveau à la tâche et consacrons-nous nous-mêmes à Christ. Et frère Neville, notre noble frère, un vrai pasteur, un serviteur du Dieu vivant, tout ce que cet homme connaît du message, il le soutient de toutes ses forces. C'est vrai. Il a un tempérament doux. Il a un peu peur de... Oui, il n'a pas peur, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il est tellement, tellement doux qu'il ne se décide pas à élever la voix, vous savez, par exemple, de dire quelque chose de sévère et tranchant, ou « Assoyez-vous » ou « Restez tranquille ». J'ai remarqué ça et j'ai écouté de ses bandes. Mais il se trouve que moi, je peux le faire. Alors, je veux que vous vous souveniez de mes paroles, vous voyez? Et tout ceci est enregistré, vous voyez? Tout est enregistré. Et s'il vous plaît, que chacun des diacres reste à son poste. Et souvenez-vous que vous avez reçu de Dieu le mandat de vous acquitter de ce poste comme d'un devoir sacré. Vous voyez? C'est pareil pour chacun des administrateurs. Quant au pasteur, il doit apporter. Ce n'est pas le rôle du pasteur d'avoir à dire ça. C'est celui des administrateurs, ou je veux dire des diacres, parce que ce sont eux qui sont la police de l'Église. Par exemple, si deux jeunes couples viennent à l'extérieur et se mettent à klaxonner, vous savez, comme ils ont l'habitude de faire, ou quelque chose comme ça pendant les réunions, où ils sont là dehors, de même si une mère envoie sa fille ici et qu'elle part avec un petit voyou, qu'elle file en voiture avec lui alors que sa mère pense qu'elle est à l'église comme ça, c'est au diacre de s'en occuper. Ou bien vous entrez, ou vous asseyez, ou bien je vous ramène moi-même chez votre mère dans ma voiture, vous voyez? Vous devez le faire, rappelez-vous, l'amour est correctif, vous voyez, toujours. L'amour authentique est correctif. Alors, vous devez pouvoir supporter la correction. Donc, les mères savent maintenant qu'il y a un endroit ici pour leur bébé. Vous, les jeunes enfants, vous savez qu'il ne faut pas courir dans le bâtiment, voyez? Et vous, les adultes, vous savez qu'il ne faut pas parler ou tenir des conversations dans la salle, voyez? Ne faites pas ça, c'est mal, ce n'est pas agréable à Dieu. Jésus a dit, il est écrit que ma maison sera une maison d'adoration de prière, qu'elle sera appelée la maison de prière par toutes les nations. Et ils y achetaient, ils y vendaient, alors il s'est fait un fouet avec des cordes et il a chassé les gens de la salle. On ne veut certainement pas que ça se produise dans ce sanctuaire-ci. Alors, consacrons nos vies, notre église, notre travail, notre service et tout ce que nous possédons au royaume de Dieu. Bon, maintenant, je vais lire quelques passages des Écritures avant que nous fassions la prière de consécration. Et en fait, c'est seulement une reconsécration, parce que la vraie consécration a eu lieu il y a 30 ans. Maintenant, comme nous lirons ce passage des Écritures et que nous le commenterons pendant quelques minutes, je mets ma confiance en Dieu qu'il nous donnera ses bénédictions. Et maintenant, j'avais autre chose à dire. Oui, là, il y avait autrefois des magnétophones et tout. Maintenant, nous avons une salle exprès pour ceux qui veulent enregistrer. où on y a fait les connexions nécessaires et tout, c'est branché directement sur le micro principal. Là. Il y a des salles, des vêtements de baptême et tout ce qu'il faut pour les services de baptême. Une chose encore, bien des gens m'ont toujours reproché. Bien des gens qui ne connaissent pas vraiment l'Écriture d'avoir un crucifix dans l'Église. Je me rappelle qu'une fois, il s'est passé quelque chose ici à ce sujet-là. J'avais trois croix. Et un frère était tout bouleversé à cause de ça, parce qu'il avait entendu dire par une autre dénomination que le crucifix, ça représentait le catholicisme. Qu'un étudiant ou quelqu'un ou un chrétien né de nouveau vienne donc me dire que les catholiques ont le monopole du crucifix. Le crucifix de Christ ne représente pas le catholicisme, il représente Dieu, le royaume. Ce sont les saints qui représentent le catholicisme. Nous, nous croyons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Christ. Mais les catholiques, eux, ils croient en toutes sortes de médiateurs, des milliers de femmes et d'hommes et tout. Presque n'importe quel bon catholique qui meurt devient un intercesseur. Or, le crucifix de Christ représente Jésus-Christ. Saviez-vous que les premiers chrétiens, d'après l'histoire ancienne de l'Église primitive, ils portaient des croix sur leur dos partout où ils allaient pour montrer qu'ils étaient chrétiens, pour s'identifier comme tels? Les catholiques prétendent que c'était eux, bien entendu, ils prétendent que c'était eux les premiers, mais l'Église catholique n'était même pas encore organisée à ce moment-là. Oui. Mais voyez, les chrétiens portaient une croix sur... Vous avez entendu des gens dire « porte-croix ». Vous pensez que ça fait référence aux catholiques? Ce sont les vrais catholiques. L'Église mondiale universelle du Saint-Esprit, c'est exact. Nous sommes catholiques. Nous sommes les catholiques originels. Les catholiques qui croient la Bible. Voyez, eux, ce sont les catholiques de l'Église, l'organisation. Nous, nous sommes libres de ça. Nous sommes la continuation de la doctrine des apôtres. Nous sommes la continuation du baptême du Saint-Esprit et de tout ce que l'Église primitive représentait, alors que l'Église catholique n'a rien de tout ça, voyez? Donc, ils ont placé ici le crucifix qui a été apporté, qui a été taillé dans le bois d'un olivier sous lequel Jésus a prié. Il y a des années dans ce crucifix, il m'a été offert par Frère Algren Bright, et je veux le consacrer avec cette Église. Et comme c'est bien choisi, celui qui l'a suspendu là, je ne sais pas qui l'a suspendu, mais il l'a suspendu ici, à ma gauche. Il a pardonné au brigand qui était à sa droite. C'est moi. Il représente aussi autre chose. Comme sa tête est penchée et qu'on peut voir sa souffrance, tous ceux qui regardent par-dessus l'autel, il s'attend à te voir là, pécheur. Et ses regards seront posés sur toi. Plus tard, on installera une petite lampe ici pour qu'au moment de l'appel à l'autel, il y ait une lumière qui éclaire ça quand les gens seront ici pour... Vous dites, pourquoi avez-vous besoin de ça? Vous ne devriez pas avoir d'image. Eh bien, dans ce cas, le même Dieu qui a dit, tu ne te feras point d'image taillée, ce même Dieu a dit, tu feras deux chérubins dont les ailes se rabattront sur le propriétaire, là où le peuple prie. Voyez, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Voyez, donc, c'est inspiré et ça a tout de suite été suspendu au bon endroit. Je suis vraiment reconnaissant d'être celui qui est à la droite. J'ai confiance qu'il m'a pardonné, car pour ce qui est d'avoir littéralement volé quoi que ce soit, à ma connaissance, je ne l'ai jamais fait de ma vie, mais j'ai tellement mal employé son temps que, dans ce sens-là, j'ai volé. J'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire, alors je suis reconnaissant à Dieu ce matin qu'il m'ait pardonné mes péchés. Et maintenant, je vais lire dans le livre de 1 Chroniques 17 et parler pendant seulement à peu près 5 minutes pour le service de dédicace. Ensuite, nous prierons, puis nous aborderons le message. Donc, dans 1 Chronique, au chapitre 17, lorsque David fut établi dans la maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ou plutôt, va dire à David, mon serviteur, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Alors que j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison? Maintenant, tu diras à David, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière des brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. » J'aimerais dire ici que David a vu la même chose que nous. Nous avons vu. David a dit, « Il n'est pas convenable que vous m'ayez construit une maison de cèdre alors que l'arche de l'alliance de mon Dieu est encore sous une tente. » C'était des peaux qui avaient été cousues ensemble, des peaux de moutons et d'autres animaux. Il a dit, « Ce n'est pas bien que moi, j'ai une belle maison, alors que l'arche de l'alliance de mon Dieu demeure dans une tente. » Alors, Dieu lui a mis à cœur de construire un tabernacle. Mais David, même s'il était un homme rempli d'amour et de dévouement envers Dieu, il avait pourtant versé trop de sang. Alors il a dit, David a parlé en présence du prophète de cet âge-là, qui était Nathan. Et Nathan, comme il savait que Dieu aimait David, il a dit, « David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Quelle déclaration! Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Et cette nuit-là, on peut voir là combien David était consacré dans son amour pour Dieu. Et donc, de voir que cette nuit-là, comme il savait qu'il était dans l'erreur, qu'il ne lui était pas permis de faire ça, Dieu, dans sa grâce, est descendu, il a parlé à Nathan. Et j'ai toujours aimé ses paroles. Va dire à Nathan, va dire à David, mon serviteur, je t'ai pris au pâturage. Il n'était rien, rien du tout. Et j'aimerais prendre un instant pour faire un petit rapprochement ici. Je t'ai pris de rien. Et je t'ai donné un nom. Tu as un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. J'aimerais faire un petit rapprochement en vous faisant une confidence, mais c'est pour vous, pour faire ressortir quelque chose. Je pensais que il y a quelques années, j'étais ici en ville et personne ne s'intéressait à moi. Personne ne m'aimait. J'aimais les gens, mais personne ne m'aimait à cause des antécédents de ma famille. Je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers ma précieuse mère et mon précieux père. Combien j'aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce sanctuaire ce matin. Plusieurs des vétérans ici qui ont donné leur argent pour aider à le construire. Peut-être que Dieu leur permettra ce matin de regarder par-dessus la balustrade. Mais la famille Branham n'avait pas très bonne réputation dans la région à cause de la boisson. Personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me rappelle avoir dit à mon épouse, il n'y a pas longtemps, de se rappeler le temps où je ne trouvais personne qui voulait me parler. Personne ne s'intéressait à moi. Et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. Et maintenant, le Seigneur nous a donné ce beau bâtiment. Et il a fait toutes ces choses glorieuses. Et il m'a donné, à côté d'un nom de mauvaise réputation, il m'a donné un nom semblable à celui de grands hommes. Il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n'a jamais pu s'y opposer partout où il est allé. Mais combien je suis reconnaissant de ça. Comment aurais-je pu me douter? Moi, un petit garçon en Guinée, à 2 ou 3 rues d'ici, il y avait l'école Ingramville. Et j'étais la risée de l'école, tant j'étais misérable. Et je patinais sur le vieil étang. Comment aurais-je pu me douter qu'au fond de cet étang reposait la semence d'un lys qui fleurirait comme ça? Et comment aurais-je pu me douter, alors que personne ne me parlait, qu'il me donnerait, malgré tout ça, un nom qui serait honoré parmi son peuple? Donc, David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire. Mais il a dit, « Je te susciterai une postérité. » Et c'est lui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple perpétuel. Et ton fils, le fils de David, c'est sur un royaume perpétuel qu'il aura l'autorité. Salomon, le fils de David, selon la chair, celui qui l'a engendré physiquement, a construit une maison pour le Seigneur, un temple. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendra un temps où il ne resterait plus pierre sur pierre de ce temple. Aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Jean, le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu ce tabernacle. Apocalypse 21. Il a vu le nouveau temple descendre du ciel, paré comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. Et une voix qui sortait du temple disait, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et Dieu sera avec eux, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. » Alors le véritable fils de David, comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine, entrera alors dans son temple, le temple de Dieu. Le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et j'irai. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est déjà prédestiné et j'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que ça, ce sera dans l'âge glorieux à venir. Alors, la véritable postérité de David montera sur le trône, c'est-à-dire Jésus-Christ, et là, il règnera sur l'Église, son épouse qui sera dans la maison avec lui, et sur les 12 tribus d'Israël pour toute l'éternité. Quant à ces petits lieux, de même que David ne pouvait pas construire le véritable tabernacle de Dieu, parce qu'il n'était pas préparé pour le faire. Il n'y pouvait rien. Il était un mortel. Il avait versé du sang. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas préparés pour construire le véritable tabernacle de Dieu. Un seul peut faire ça. Il est en construction en ce moment. Mais ce petit tabernacle, comme le temple que Salomon lui a construit, et comme les autres, ce ne sont que des lieux d'adoration temporaires jusqu'au moment où le vrai tabernacle sera élevé sur la terre. Et la justice règnera d'un bout à l'autre de l'univers. Il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de raisons funèbres prêchées dans ce tabernacle-là. Il n'y aura plus de mariage, car le seul mariage en sera un glorieux pour l'éternité. Quel temps béni ce sera! Mais prenons aujourd'hui la résolution dans notre cœur, en hommage à ce tabernacle à venir, et alors que nous l'attendons d'être tellement imprégnés de son esprit que nous adorions dans ce lieu-ci, comme si nous étions dans cet autre lieu, en attendant la venue de ce lieu-là. Maintenant, levons-nous, et je vais lire l'Écriture sainte. Puis je vis au nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel la voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Maintenant, courbons la tête. Notre Père céleste, nous sommes remplis d'une crainte respectueuse. Nous sommes remplis de respect et d'une sainte vénération. Et nous te demandons, Seigneur, d'agréer notre don, puisque tu nous as donné la grâce et l'argent pour te préparer un lieu d'adoration. Il n'y a rien, aucun endroit que nous puissions préparer sur la terre qui soit digne d'être une demeure pour l'Esprit de Dieu. Mais nous t'offrons celui-ci comme gage de notre amour et de nos sentiments envers toi, Seigneur. Et nous te remercions pour toutes les choses que tu as faites pour nous. Or, le bâtiment et le terrain ont été consacrés pour le service il y a longtemps, et nous te remercions pour les souvenirs du passé. Et maintenant, Seigneur Dieu, cette vision d'il y a bien des années a exprimé ceci. Alors que j'ai vu de vieux bâtiments où les gens s'étaient une fois assemblés, qui avaient été réparés et rénovés, ensuite, j'ai été renvoyé de l'autre côté de la rivière. Maintenant, Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes le peuple de ta bergerie. Nous sommes le peuple de ton royaume. Et en même temps que moi-même et le pasteur et l'Église, les gens, Nous consacrons ce bâtiment au service du Dieu Tout-Puissant. Par le nom de Jésus-Christ, son Fils, pour le service de Dieu et pour la vénération et le respect de Dieu, et puisse l'Évangile se répandre de ce lieu à un point tel qu'il attira le monde entier à venir des quatre coins du globe pour voir la gloire de Dieu se manifester à partir d'ici. Ce que tu as fait dans le passé, puisses-tu le multiplier dans l'avenir. Père, nous nous consacrons maintenant au service par la parole de tout notre être. Seigneur, l'Assemblée et les gens, ce matin, ils se consacrent à l'écoute de la parole. Et nous, les prédicateurs, nous nous consacrons à la prédication de la parole, à insister en toute occasion, favorable ou non, en reprenant, en censurant avec toute douceur, comme il a été écrit dans la pierre angulaire il y a déjà 30 ans. Tu as dit qu'il viendrait un temps où les gens ne supporteraient pas la sainte doctrine, mais qu'ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs, qu'ils détourneraient l'oreille de la vérité, qu'ils se tourneraient vers des fables. Seigneur, comme nous nous sommes efforcés de présenter la parole aux gens, puissions-nous être inspirés et fortifiés pour redoubler d'efforts, Seigneur, alors qu'une double portion de l'Esprit se répandra sur cet endroit. Puisse le Saint-Esprit, comme il en a été au jour de la consécration du Temple, quand Salomon a prié, le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu et de nuée, est entré par la porte principale. Il a tourné autour des chérubins et il est allé dans le lieu saint pour occuper son lieu de repos. Ô Dieu, Salomon a dit, « Si ton peuple est en difficulté en quelque endroit et qu'il t'adresse des prières, les regards tournés vers ce saint lieu, alors exauce-le du haut du ciel. » Seigneur, que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur ce matin, dans chaque âme consacrée qui est ici. Et la Bible dit que la gloire de Dieu était tellement grande que les serviteurs de Dieu ne pouvaient même plus faire le service à cause de la gloire de Dieu. Ô éternel Dieu, que cela se reproduise de nouveau, alors que nous nous offrons à toi avec cette Église en nous consacrant pour le service. Et il est écrit, « Demandez et vous recevrez ». Aussi, nous nous remettons à toi en même temps que nous t'offrons cette Église ce matin pour le service, les lumières du dernier jour, les lumières du temps du soir, pour que nous puissions apporter consolation et foi au peuple qui est dans l'attente de la venue de l'Époux, pour vêtir une épouse de l'Évangile de Christ, afin que le Seigneur Jésus puisse la recevoir. Ainsi, nous nous consacrons moi-même, Frère Neville, et l'Assemblée au service de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. David a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, « Allons à la maison de l'Éternel. » Puisse-t-il toujours en être ainsi pour nous, que nous soyons toujours heureux à la pensée de nous assembler dans la maison de l'Éternel. Amen. Maintenant, après ce petit service de consécration, il me reste encore une heure. Et maintenant, n'oubliez pas donc ce à quoi nous nous sommes consacrés. au respect, à la sainteté, à la tranquillité devant le Seigneur, à l'adoration en présence du Seigneur, et soyez aussi respectueux que possible dans la maison du Seigneur. Et maintenant, et quand la réunion est terminée, tout de suite après la fin de la réunion, sortez du bâtiment, voyez. Comme ça, le concierge aura le temps de venir le nettoyer pour la prochaine fois et que tout soit prêt. Alors, il n'y a pas de désordre dans la maison du Seigneur. Et je pense que vous, qu'il faudrait avoir vidé les lieux une quinzaine de minutes après la fin de la réunion. Ne manquez pas d'être gentil. Serrez la main à chacun et invitez chacun à revenir. Et nous nous attendons pendant la semaine qui vient à une des réunions les plus solennelles qui ait jamais eu lieu dans le tabernacle. Nous attendons ça avec impatience. Maintenant, cela m'est venu vers la nuit dernière, très tard, vers les petites heures du matin. J'étais en prière et j'ai commencé à entrevoir quelque chose. Alors, j'ai confiance que ce sera un grand moment et que ce le sera si le Seigneur nous vient en aide. Or, quand j'ai dit un grand moment, là, ce matin, je vais parler de quelque chose qui se rapporte à ça. Vous savez, ce que l'homme appelle grand, parfois, ce n'est pas grand. Mais ce que Dieu appelle grand, l'homme, lui, appelle folie. Et ce que Dieu appelle folie, l'homme l'appelle grand. Alors, n'oublions pas ça, pesons chaque mot. Maintenant, ce sont des réunions qui sont longues. Elles se prolongeront parce que ce sont des réunions difficiles. Beaucoup d'enseignements, de consécration, et là où je suis logé, les gens, ils m'offrent toutes sortes de choses à manger, ils disent, « Mais vous avez tellement maigri, frère Branham, et tout, mais c'est parce que je suis tout le temps dans les réunions. Je dois partir d'ici dimanche soir prochain pour me rendre tout de suite à une autre au Mexique. » Alors, ce n'est pas vraiment facile, mais j'essaie de ne pas trop manger, et je me prépare. Je suis content de voir frère Junior Jackson ce matin, et frère Ruddle, et les différents prédicateurs, et ainsi de suite, d'un peu partout. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, je veux vous parler d'un sujet sur lequel j'ai pris quelques notes ici, et je veux d'abord lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Maintenant, pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais faire une ou deux annonces. C'est que ce soir, je veux parler de ce livre-ci, m'en servir pour relier le dernier âge de l'Église à l'ouverture des sceaux. Il y a une immense brèche là. Et précédemment, quand j'ai eu terminé les âges de l'Église, j'avais aussi parlé tout de suite après des 70 semaines de Daniel, parce que cela s'y rattachait. Et j'avais dit, maintenant, si jamais je parle des 7 sceaux, il faudra d'abord que je fasse le point sur les 70 semaines de Daniel pour pouvoir y rattacher les sceaux. Il ne restait qu'une chose en suspens, et c'était le chapitre 5 du livre scellé de 7 sceaux. Et c'est ce que nous allons prendre ce soir. Nous voulons essayer de commencer de bonne heure ce soir. Qu'est-ce que vous en diriez est-ce que vous l'avez déjà mentionné à propos de commencer de bonne heure? Qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que tout le monde peut être ici vers 7 heures? Très bien. Commençons donc la réunion à 6h30, le service de chant, et je serai là à 7 heures. Et on commencera de bonne heure toute la semaine. Et nous venons. Il n'y a personne qui aime chanter autant que les chrétiens. Nous aimons chanter, nous aimons ces choses, mais là, nous nous sommes occupés à autre chose en ce moment. Nous sommes dans la parole, vous voyez, alors tenons-nous en cela en ce moment. Nous sommes dans un enseignement, et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi, vous voyez, parce que si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à y en répondre, vous voyez. Alors, je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un. Cela doit être inspiré. Je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont, vous voyez. Et maintenant, dans Ésaïe, le chapitre 53 d'Ésaïe, le premier verset ou les deux premiers, je voudrais vous poser cette question. Alors, ceci n'a aucun rapport avec les 7 sceaux du tout. Ce n'est qu'un message. En effet, je savais que je devais m'occuper de la dédicace et que je n'aurais pas à aborder cela parce que je n'en aurais pas le temps. Mais j'ai pensé qu'avec un petit service de dédicace, un petit service commémoratif pour cette église, ou plutôt un petit service de dédicace, alors ça ne s'en laisserait pas assez de temps pour aborder ce que je veux dire, vous voyez, au sujet de l'ouverture de ce livre. Alors, je le ferai ce soir. Et donc, ceci, c'est simplement un petit service, mais qui va cadrer très bien avec cela. Alors, maintenant, écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre de ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande, voyez. En effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal long là-dessus maintenant. Pourquoi? C'est mal compris. Voyez, et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est sur la bande. Ne dites rien d'autre, voyez. En effet, je ne dis pas cela de moi-même. C'est lui qui le dit, voyez. Et donc, très souvent, il y a de la confusion, des gens qui se lèvent pour dire, eh bien, un tel a dit cela, ça voulait dire telle, telle chose, laissez-le donc tel. Voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible. C'est exactement comme la Bible le dit. C'est comme ça que nous le voulons, exactement comme cela. N'y ajoutez pas votre propre interprétation, elle est déjà interprétée. Voyez. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Je vais le relire, écoutons bien. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Question. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le bras de l'Éternel s'est révélé, voyez? Qui a cru à ce qui nous est annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Là, je veux aussi lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 de Matthieu. Maintenant, apportez du papier et tout, parce qu'on va constamment, si vous n'avez pas de magnétophone, alors apportez du papier pour pouvoir le noter. Au chapitre 11 de Matthieu, les versets 25, 26, 11, 26 et 27. Très bien. C'est Jésus qui parle et il prie. Je veux commencer un peu plus haut. Prenons donc les versets 25 et 26. Mais c'est ce que j'ai dû annoncer, parce que c'est ce que j'ai marqué ici dans ma Bible. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu le veux ainsi. » Saisissez bien ces deux passages des Écritures. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Et ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu'il avait caché les mystères aux sages et aux intelligents et de ce qu'il les révélerait aux enfants qui voudraient apprendre, car Dieu avait trouvé bon d'agir ainsi. Maintenant, de ce texte ou de cette lecture des Écritures, j'ai tiré ce sujet. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, c'est à cause des bandes que je répète tout le temps. À cause des bandes, vous voyez, parce qu'il l'enregistre. Vous voyez, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple que les sages vont le manquer 1 000 000 à cause de ça. Ensuite, il va faire demi-tour et dans cela, cette chose toute simple, dans la simplicité de sa façon de faire, il va s'y révéler encore. J'ai pensé qu'on aurait là un sujet à étudier avant d'aborder les grands enseignements des sept sceaux. Bien des gens le manquent à cause de la façon dont ils se révèlent. Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait être et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire et il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Voyez? Voilà comment il passe à côté. Il regarde en arrière et il voit ces grandes choses qu'il a faites, mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Voyez? Et ensuite, il regarde en avant et il voit une grande chose qui vient, qui doit arriver. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver là autour d'eux. Et c'est tellement simple qu'ils n'en ont pas connaissance, voyez? Un jour, un homme ici à Utica, s'il y a quelqu'un de sa famille ici, je ne dis ça, ce n'est pas du tout pour dénoncer cet homme d'une manière radicale. C'est un vétéran de la guerre de sécession. Et je crois qu'il était, je ne sais pas de quel côté il était, mais je crois qu'il était un rebelle, un sudiste. Mais il était irreligieux. Il déclarait que Dieu n'existait pas. Il habitait à Utica. Il s'appelait Jim Dorsey. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont connu. Des melons d'eau, ça, il m'en a donné quand j'étais un petit garçon. Il cultivait des melons d'eau au bord de la rivière dans les terres d'alluvion, là. C'était un bon ami de mon papa. Mais il a dit qu'un jour, une de ces choses les plus frappantes qui lui a été dite, en opposition, or je n'étais qu'un petit garçon à l'époque, mais en opposition avec sa croyance et qu'il a fait s'éloigner la tête basse en pleurant, j'ai cru comprendre que c'est à cause de ça que cet homme a connu une glorieuse conversion à Christ à l'âge de 85 ans. Un jour, il m'a demandé à une petite fille qui revenait de l'école du dimanche pourquoi elle perdait son temps à une chose pareille. Elle a dit que c'est parce qu'elle croyait qu'il y avait un Dieu. Et M. Dorsey a dit qu'il lui dit, « Ma petite, comme tu as tort de croire à une chose pareille. » Il a dit que la petite fille s'est baissée pour cueillir une petite fleur sur par terre. Elle l'a arrachée par les pétales. Et elle a dit, « Monsieur Dorsey, pouvez-vous me dire comment ceci vit? » Et voilà. Quand il a commencé à sonder la chose, il aurait pu dire à l'enfant, « Eh bien, elle pousse dans la terre. » Alors, ça aurait entraîné d'autres questions. D'où vient la terre? Comment cette graine s'est-elle trouvée là? Comment est-ce arrivé? Et le reste, et le reste, et le reste, en remontant vers la source jusqu'à ce qu'il voit, voyez? Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel, dans la simplicité. Donc, Dieu trouve bon de se révéler, et puis de se cacher, et puis de se cacher pour se révéler dans des petites choses toutes simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Parce que si vous disiez pourquoi est-ce qu'un Dieu juste ferait cela, c'est parce que l'homme, quand il a été fait au commencement, il ne devait pas essayer de se débrouiller tout seul. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux ou à des brebis. Une brebis qui ne peut pas se conduire elle-même, elle doit avoir un conducteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est censé nous conduire. Donc, l'homme est fait comme ça. Et si Dieu a fait toutes ses œuvres aussi simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Et Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. En d'autres termes, il a dit dans Ésaïe 35, je crois qu'il a dit, « Même un insensé ne pourra s'y égarer. » C'est tellement simple. Et nous, comme nous savons que Dieu est si grand, nous nous attendons à quelque chose de grandiose et nous passons à côté de la chose toute simple. Nous nous achoppons à la simplicité. C'est comme ça que nous manquons Dieu, en nous achoppant à la simplicité. Dieu est tellement simple que les érudits de notre époque et de toutes les époques, le manque d'un million de mille. En effet, intellectuellement, ils savent qu'il n'y a rien qui soit aussi grand que lui. Mais quand il se révèle, il le fait d'une façon tellement simple qu'il passe carrément par-dessus et qu'il le manque. Maintenant, étudiez cela, étudiez-le à fond. Et vous, les visiteurs ici, quand vous retournerez à votre chambre de motel, penchez-vous sur ces choses et méditez-les. Nous n'avons pas le temps d'analyser tout cela comme on devrait le faire, mais je voudrais que vous le fassiez quand vous arrivez au motel ou à l'hôtel ou là où vous êtes logé ou à la maison. Rassemblez-vous et étudiez cela. Il le manque à cause de la façon dont il se révèle. En effet, il est tellement grand et pourtant il se cache dans la simplicité pour se faire connaître aux plus petits. Voyez, ne cherchez pas ce qui est grand parce qu'il passe carrément par-dessus, mais prêtez attention à la simplicité de Dieu et alors vous trouverez Dieu ici dans la manière simple. La sagesse du monde, hautement raffinée, instruite, elle le manque toujours. Maintenant, je ne suis pas ici. Je sais qu'il y a des professeurs, deux ou trois que je connais, qui sont assis ici. Je ne suis pas ici pour contester la valeur de l'école et de l'instruction et pour essayer d'encourager l'illettrisme. Je ne suis pas ici pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens ont attaché tellement d'importance à ça qu'ils, même dans les séminaires et tout, ils manquent la chose même que Dieu a mise devant eux. C'est pourquoi je ne suis pas contre les frères qui sont dans les dénominations. Mais je suis contre le système de dénomination parce qu'ils cherchent à s'élever et à faire étudier ces prédicateurs à tel et tel endroit, si bien que s'ils n'ont pas la scolarité et l'instruction requises, ils sont exclus. Et ils sont obligés de passer un examen psychiatrique et tout ça. Jamais je n'ai cru que ce soit la volonté de Dieu de tester un prédicateur par la psychiatrie, mais de le tester par la parole. Voyez? C'est ça qui serait la manière de Dieu de tester son homme, celui qui l'envoie pour porter la parole. Prêche la parole. Or, aujourd'hui, on prêche la philosophie, on prêche les credos et les dénominations et tant de choses, et on laisse de côté la parole parce qu'elle ne peut pas être comprise à ce qu'ils disent. Elle peut être comprise. Il a promis de faire en sorte qu'elle soit. Bon, est-ce que nous lui demandons de faire? Nous allons prendre quelques personnages là pendant quelques minutes. Considérons l'époque de Noé. À l'époque de Noé, Dieu, quand il a vu qu'on mettait tant l'accent sur la sagesse du monde et qu'on la respectait tant, il a envoyé un message simple pour le moyen d'une personne simple pour leur montrer sa grandeur. Or, nous savons qu'à l'époque de Noé, on prétend que la civilisation d'alors était tellement puissante que nous n'avons encore jamais atteint un tel degré dans notre civilisation moderne. Et je crois qu'ils finiront par y parvenir, parce que notre Seigneur a dit, « Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Et il y a donné quelques exemples. Ils ont construit la pyramide et le sphinx là-bas, en Égypte. Ils ont construit des choses gigantesques, et aujourd'hui, on n'a pas l'énergie qu'il faut pour utiliser, pour construire des choses pareilles. Ils avaient un procédé d'embaumement qui leur permettait d'embaumer un corps en lui donnant une apparence tellement naturelle qu'il l'a conservé jusqu'à nos jours. Nous, on ne peut pas faire une momie aujourd'hui. On n'avons pas ce qu'il faut pour faire ça. Ils avaient des couleurs tellement solides que vieilles de 4 ou 5 000 ans, elles ont gardé exactement la même couleur. Vous voyez, nous ne possédons rien de pareil aujourd'hui. Et beaucoup de grandes choses de cette civilisation-là témoignent de sa supériorité sur notre civilisation moderne. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que l'instruction et la science devraient être avec de si grands signes qui nous sont restés pour prouver l'existence d'une telle civilisation. Quelle grande civilisation ce devait être? Eh bien, avec les souvenirs qu'elle a laissés, combien la science et la civilisation moderne et l'instruction étaient quelque chose d'indispensable chez les gens. C'était indispensable pour eux. Ça ne pouvait pas faire autrement. J'imagine qu'il ne devait pas y avoir d'illettrés parmi eux, ou alors très peu. Donc Dieu, en cherchant au milieu du grand système économique de cette époque-là, peut-être qu'il n'arrivait pas à trouver le type d'homme qu'il lui fallait jusqu'au moment où il a trouvé un illettré, peut-être un paysan du nom de Noé, un berger. Et il lui a donné son message à prêcher aux gens, un message tellement simple, à côté de leur grande connaissance de cette époque-là, que les gens se sont achoppés à la simplicité du message. Pourtant, face à la science, le message, c'était radical. Comment pourrait-il y avoir de la pluie dans les cieux alors qu'il n'y avait pas de pluie là-haut? Vous voyez? Et ce simple message de bâtir une arche, de construire quelque chose dans le but d'y entrer, alors qu'il n'y avait pas d'eau pour la faire flotter. Voyons, ça a fait de lui un fanatique. Et ça a fait de lui un ce qu'on appellerait aujourd'hui, excusez l'expression, un drôle d'oiseau. Et presque tous les enfants de Dieu sont des drôles d'oiseaux. Ils le sont. Je suis content d'être l'un d'entre eux. Alors, vous savez, comme ils sont indifférents de la tendance moderne de la civilisation, ça fait qu'ils sont bizarres, étranges. Il a dit que son peuple était un peuple à part, bizarre, étrange, mais un sacerdoce spirituel, une nation royale, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de leurs lèvres donnant la louange à son nom. Quel peuple! Quel peuple! Et il l'a. Et remarquez bien, là, ça a vraiment dû être quelque chose en ce temps-là de voir un fanatique se présenter devant l'Église, un fanatique, et qui prêchait un évangile qui apparemment allait tout à fait à l'encontre de leur façon de croire. Alors, pour les savants, voyons, c'était de la folie pure et simple. Comment ils pouvaient démontrer scientifiquement qu'il n'y avait pas de puits là? Mais cet humble berger, lui, il croyait que si Dieu avait dit qu'il pleuvrait, il pleuvrait. Vous voyez? Et alors, comparez donc ça avec aujourd'hui, quand quelqu'un est guéri. Ils disent que ce n'est que de l'émotion. Je peux vous prouver scientifiquement que le cancer ou la substance ou la chose, elle est encore là. Mais pour le croyant tout simple, elle est partie. Voyez? En effet, lui ne regarde pas à la substance, il regarde à la promesse exactement comme Noé l'avait fait. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme? Scientifiquement, personne. Le médecin aura beau dire, regardez, la tumeur est encore là. Votre cancer est encore là. Votre bras est toujours aussi infirme. Vous êtes fou. Et souvenez-vous, ça, c'est le même esprit qu'au jour de Noé, quand il disait, il n'y a pas de puits là-haut. Nous pouvons sonder la lune avec des instruments. Il n'y a pas de puits là-haut. Et si Dieu a dit qu'il y aurait de la pluie là, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas vues, et la foi trouve son lieu de repos final dans la parole de Dieu. C'est là qu'elle trouve son lieu de repos, vous comprenez? Elle se repose sur la parole de Dieu. C'est là que Noé l'a fait reposer. Dieu l'a dit. C'était réglé. Maintenant, remarquez autre chose là. Noé, du fait qu'il croyait ça, il était un fanatique. Et les gens d'aujourd'hui qui croient au baptême du Saint-Esprit, bon, l'Église dit, ces gens-là, ce sont des fanatiques. Ils ne sont qu'une bande d'exaltés, des motifs de gens pris de panique. Mais ils sont bien loin de se douter que ce que la parole de Dieu enseigne, c'est une promesse. Et pour Noé, peu importe combien on pouvait dire que le pauvre vieux avait perdu la tête, que scientifiquement il faisait fausse route et que mentalement, il faisait fausse route, mais pour Noé, c'était la parole du Seigneur, et Noé s'y est tenu. Les sages et les intelligents, eux, ils se sont achoppés à la simplicité de la chose, et ils l'ont payé de leur vie. Quelle réprimante maintenant adressée à cette génération-là. Bien des gens disent, moi, si j'avais vécu à cette époque-là, non, vous auriez eu la même attitude. En effet, aujourd'hui, alors qu'il y a exactement la même chose qui est en train de se produire, seulement sous une autre forme, ils s'y achoppent aujourd'hui tout comme ils l'ont fait à l'époque. Sans doute qu'il ne manquerait pas de prédicateurs à l'époque. Mais Noé était inspiré de Dieu. Et Noé pouvait regarder et voir ce qui était sur le point d'arriver et savoir que Dieu ne permettrait pas à une génération adultère et méchante comme celle-là de subsister. Alors, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Sinon à la même chose, un Sodome et un Gomorre contemporain. Voyez, des gens méchants et adultères d'une instruction si raffinée qu'ils s'achoppent à la simplicité alors que Dieu manifeste son être et sa parole, qu'il montre sa parole. Il n'y a personne au monde, Rosala, qui puisse dire que nous ne voyons pas avec nous la parole même de Dieu manifestée, la promesse même des derniers jours. Les lumières du soir même qui devaient briller, nous sommes un peuple privilégié de voir ça. Et alors que c'est caché à ce monde si hautement raffiné, Jésus a dit à Dieu, au Père, il a dit, il t'a plu de le leur cacher. Oui, Père, tu l'as caché. Il les a laissés avec leur sagesse. Vous voyez, c'est la sagesse qui a envoyé le ballon rouler dans la boue du péché au commencement. En effet, Ève était en quête de sagesse quand elle a rencontré Satan et Satan la lui a donnée. Voyez, et la sagesse est contraire à la parole. Il ne nous a pas demandé d'avoir de la sagesse, il nous a demandé d'avoir de la foi en ce qui a déjà été dit. Alors, vous voyez, mais aujourd'hui, les érudits l'arrangent si élégamment, ils la placent là-bas et ils y ajoutent leur propre interprétation. Ils l'ont toujours fait. Ils font la même chose aujourd'hui, dans la même mesure. Maintenant, les gens, mais où à l'époque, les gens ont passé à côté, exactement comme ils passent à côté, ils le font aujourd'hui, la même chose, ils font la même chose, en effet. Et en effet, la raison pour laquelle ils ont passé à côté, c'est qu'ils étaient trop intelligents pour le croire. Voyez? Le message, donc, était tellement simple que les intelligents étaient trop intelligents pour croire la simplicité du message. Oh là là! Dieu l'a fait d'une vérité tellement simple que les intelligents et les intellectuels ne l'ont pas vu, justement parce qu'ils étaient tellement simples. Eh bien, c'est ça qui fait que la grandeur de Dieu est si grande, c'est ce que parce qu'il est le plus grand, il peut se faire simple. Les hommes d'aujourd'hui, c'est ce qui montre qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont grands, ils essaient de se faire plus grands et de se montrer importants à coup de grands évêques, de docteurs, saints papes et tout, en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas réellement. Et Dieu, lui, qui est si grand, il se fait tout simple. La simplicité, c'est ça la grandeur. Nous pouvons construire un avion en réaction, nous pouvons envoyer une fusée ou mettre un missile en orbite. Et nous avons beau faire toutes ces choses, mais nous ne pouvons pas fabriquer un seul brin de sable, un seul brin d'herbe. Eh oui, amen, qu'est-ce que vous dites de ça? Mais au lieu d'essayer de revenir à la source pour voir d'où vient cette herbe et d'accepter le Dieu même qui a créé l'herbe, nous essayons de construire un missile qui arrivera à destination avant que quelqu'un d'autre puisse en construire un. Voyez? Dans nos églises, nous sommes tellement intelligents, tellement intellectuels que nous pouvons construire un bâtiment d'1 million de dollars ou un bâtiment de 10 millions de dollars, mais pourtant, Et nous essayons d'en construire un plus beau que celui des méthodistes ou les baptistes d'en construire un de plus beau que celui des presbytériens. Et voilà que les pentecôtistes aussi se sont jetés dans la mêlée. Mais ce qu'il y a, c'est ceci. Nous sommes tellement intelligents et tellement bien installés dans nos façons de faire que nous ne nous humilions pas pour prendre conscience du Dieu qui se trouve dans la petite mission du coin. Voyez? C'est vrai. Eh bien, nous nous achoppons à la simplicité. Ils l'ont toujours fait. Donc, ils étaient trop intelligents pour croire un message aussi simple. Ils n'étaient pas assez raffinés pour les recherches scientifiques qu'ils avaient faites. Ils n'étaient pas assez brillants. Les messages ne l'étaient pas assez pour s'accorder avec le programme d'enseignement qu'ils avaient à cette époque-là. Vous voyez, ils avaient étudié pour savoir qu'il y avait un Dieu, et étudié pour savoir qu'il était grand. Et ils essayaient de se faire grand avec lui. Alors que la façon de monter, c'est toujours de descendre. Maintenant, qui sait si c'est le pôle Nord qui est au Nord, ou si c'est le pôle Sud qui est au Nord, ou si c'est le pôle Nord qui est au Sud et le pôle Sud qui est au Nord? Lequel est en haut? Lequel est en bas? Nous sommes suspendus dans l'espace. Nous disons le pôle Nord est en haut. Comment le savez-vous? Le pôle Sud pourrait être au Nord. Voyez? Vous ne savez pas. Alors, souvenons-nous. Et cette parole, vous dites, en ce cas, Frère Branham, comment pouvons-nous nous dire qu'en haut et c'est en bas? Sur le fondement de la parole de Jésus-Christ, il a dit, celui qui s'humilie sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé, sera humilié. Alors, en fait, en haut, c'est en bas. Et en bas, c'est en haut. C'est comme ce brave saint à Chicago qui racontait qu'un homme, un certain prédicateur d'une certaine organisation, avait pris la parole devant un groupe de pentecôtistes. Il avait rassemblé tout son savoir intellectuel. Il est monté sur l'estrade. Il a employé des mots que les pentecôtistes ne connaissaient pas du tout. Il est monté sur l'estrade et il s'est aperçu que ses pentecôtistes ne le suivaient pas. Il était monté en bombant le torse. Il était le saint docteur Intel, vous savez, de telle et telle école bien connue là-bas à Chicago. Il a regardé autour de lui et ses pentecôtistes se regardaient les uns les autres. Ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Ils étaient tellement instruits, tellement intelligents, tellement brillants. Ils ne savaient pas. C'est un peu comme ce sénateur ou cet homme qui vient de porter candidat à la présidence et qui a été battu. Tom Coutts m'en a parlé quand j'ai prêché au funérailles de Maman Ford. Et je parlais de la résurrection, de l'assurance de la résurrection. Aussi sûr que le soleil se lève, moi aussi je me lèverai. Aussi sûr que l'herbe meurt à l'automne et que la feuille tombe de l'arbre, ils reviennent de nouveau. Quand la Terre reprend sa bonne position sur son orbite, ils doivent ressusciter. Tuck a dit, « J'ai apprécié ce message, Billy. » Frère Neville et moi, nous étions assis ensemble dans la voiture. J'ai dit, « Tuck, il a dit, j'apprécie vos messages. » J'ai dit, « Tuck, je n'ai pas d'instruction. » J'ai dit, il a dit, c'est justement ça qui est bien, voyez. Et là, il disait qu'il était allé voir, eh bien, je pense bien que cet homme me pardonnera, je ne dis pas ça, Eddie Stevenson. Vous savez, il a dit qu'il avait écouté pendant 15 minutes, et M. Stevenson est un orateur tellement brillant, enfin, supposément. Vous savez que Tuck a dit, il doit avoir fait des études universitaires, il a dit qu'il était assis là, il s'est endormi. Il a dit, il s'est endormi au bout de 15 minutes à l'écouter parler, mais il a dit, avec ses études universitaires, c'est tout juste si j'ai compris quelques mots de ce qu'il a dit. C'était tellement recherché, il a dit, vous ne m'avez jamais vu dormir pendant une de vos réunions, n'est-ce pas, Frère Branham? Alors, vous voyez, c'est la simplicité de cela, tout simple. C'est là que Dieu se trouve. Mais en ce temps-là, ils étaient trop intelligents pour saisir le sens de la façon toute simple de Dieu de faire les choses. Ils trouvaient que ça manquait de raffinement. Il faut que ce soit raffiné, il faut que ce soit très élégamment présenté, sinon ils passent à côté. Seulement là, le grand Jéhovah était caché dans sa parole. Et il s'est fait connaître aux gens qui croyait sa parole en les sauvant et en accomplissant un message simple. Le message simple de Noé, Dieu l'a accompli. Remarquez bien ça. Et de même, au temps de Moïse, remarquez, une autre époque de délivrance. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose pour délivrer son peuple, Dieu envoie un message au peuple. Et c'est tellement simple, comme nous le verrons dans l'ouverture des sceaux, c'est pour cette raison que je voulais vous apporter ceci en premier, c'est que nous verrons que l'ouverture des sceaux, c'est tellement simple que les intelligents le manquent 1 000 000. Voyez? J'espère que Dieu moindra pour cela. Voyez? Ça passe par-dessus simplement, et c'est pour ça que j'ai pensé que le message de ce matin conviendrait bien pour poser un fondement sur la simplicité de Dieu. Vous voyez, la manière dont Dieu se cache dans la simplicité. Pensez un peu, ils peuvent désintégrer les atomes et faire toutes ces autres choses, mais pour ce qui est de la vie, ils ne peuvent même pas dire d'où elle est venue. Un simple brin d'herbe, et Dieu est caché dedans. Ils peuvent envoyer une fusée sur la Lune et sonder par radar là-bas et quoi encore, mais pourtant, ils ne peuvent pas expliquer la vie qui se trouve dans un brin d'herbe. C'est vrai, voyez? C'est parce que ça ne s'explique pas. C'est tellement simple qu'ils n'y font pas attention. Maintenant, remarquez, Moïse, le jour où Dieu a été sur le point de délivrer les enfants d'Israël selon sa parole, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une famille toute simple. Nous ne savons rien d'eux. Vous voyez, tout ce que nous savons, c'est que c'était un fils de Lévi. Vous voyez, alors nous et son épouse, il n'était probablement qu'un simple tripoteur de boue. C'est ce que le monde en penserait, là-bas, en train de fabriquer des briques pour l'ennemi. Il n'était qu'un esclave quelconque au milieu d'Israël. Mais Dieu a choisi cette famille-là pour y susciter le libérateur. Une famille juive comme les autres, c'est tout. Il n'a pas du tout choisi quelqu'un de famille royale, une célébrité ou quelque chose du genre. Il n'a pas même choisi un sacrificateur. Il a choisi une simple famille comme les autres, voyez? La simplicité. Remarquez ce qu'il a fait ensuite. Il a fait naître un enfant, un simple être humain. Il n'a jamais. Il aurait pu décréter que le soleil les délivrerait s'il l'avait voulu. Il aurait pu décréter que les vents les délivreraient. Il aurait pu décréter qu'un ange les délivrerait. Oh, alléluia! Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais alors, comment le savez-vous, frère Branham? Dieu ne déviera pas de son plan. C'est ce qui nous fait savoir qu'aujourd'hui, ça doit être simple, voyez? Donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Mais Dieu, au commencement, il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche l'Évangile, ou que ce soit les vents qui prêchent l'Évangile, ou que ce soit un ange qui prêche l'Évangile, mais c'est l'homme qui l'a établi pour le faire. Il ne change jamais ça. Il n'a jamais établi des dénominations, il n'a jamais établi des groupes d'hommes, il a établi l'homme pour prêcher l'Évangile. Pas des machines ou des inventions mécaniques ou quelques êtres angéliques, c'était l'homme. Et quand il a apporté la délivrance au peuple là-bas, il a envoyé un simple être humain, né dans une simple famille, au milieu d'une bande d'esclaves. Oh là là! Quel Dieu merveilleux! Il se dévoile dans la simplicité. Maintenant, remarquez, il l'a fait instruire dans la sagesse du monde pour qu'il puisse échouer, pour montrer que nous ne pourrons jamais être délivrés par la sagesse. C'est par la foi que nous sommes délivrés. Il a laissé aller recevoir une instruction tellement solide qu'il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens. Il était tellement intelligent. Dieu était avec cette famille de gens tout simples qui ne savaient peut-être même pas écrire leur nom. Et Moïse a fait des études très poussées. Il est parvenu à un niveau d'instruction tellement élevé qu'il pouvait enseigner la sagesse au docteur. Il pouvait en apprendre au génie. Oui. Et Dieu l'a laissé en arriver là pour pouvoir se manifester dans l'humilité, pour montrer que la sagesse n'a rien à y voir. Et Moïse, avec tout son génie, a échoué pitoyablement. Il a laissé en arriver là pour servir à ses fins, pour qu'il échoue. Et effectivement, il a échoué et il est tombé. Donc, pour montrer que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la sagesse de l'Égypte, ni par la sagesse de nos écoles, ni par la puissance de nos séminaires, mais ni par le nombre de notre organisation, ni par la puissance de notre enseignement savant, mais c'est par mon esprit, dit Dieu. Sa sagesse s'était volatilisée, elle avait disparu quand il a rencontré Dieu là-bas, dans le buisson ardent. Il a ôté ses souliers, il s'est abaissé devant l'humilité, il a tout oublié sa sagesse. Dieu, pour apporter la délivrance, il a dû l'instruire dans la sagesse afin de le laisser faillir pour montrer qu'on ne peut pas s'appuyer sur le bras de son propre entendement ni sur l'entendement de qui que ce soit d'autre. Il l'a laissé faillir pour montrer sa main. pouvez voir ça? La raison pour laquelle Dieu a fait ça, c'était pour se manifester dans l'humilité. Il a laissé Moïse accéder au plus haut rang, au point qu'il allait devenir le prochain pharaon. C'était un général puissant. D'après l'histoire, il a conquis Moïse lui-même, les pays avoisinants. Ensuite, quand il a décidé de se consacrer à l'œuvre du Seigneur avec tout son talent, Dieu l'a laissé choir de tout son long pour qu'il puisse l'envoyer dans le désert et le vider de tout cela, et ensuite lui apparaître dans l'humilité et l'envoyer là-bas, un bâton à la main pour délivrer le peuple. Alors qu'il n'avait pas pu y arriver par une instruction militaire, par des études, par une formation scientifique, par la force des armes non plus, il n'avait pas pu y arriver. Alors il lui a donné un vieux bâton noueux du désert et il l'a fait avec lui. Dieu, dans l'humilité, la simplicité, Dieu était dans le bâton et dans Moïse. Et tant que Moïse tenait le bâton, c'est Dieu qui le tenait, parce que Dieu était dans Moïse, certainement. Remarquez, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, mais c'est par la simple foi. Moïse avait compris qu'il allait être le libérateur par l'enseignement de sa mère. Il s'est entraîné à utiliser la force des armes pour y arriver, mais ça a échoué. Voyez, il avait la compréhension, il avait l'instruction, mais ça n'a pas marché. Alors, il a dû oublier tout ça pour en venir au simple fait de prendre Dieu au mot, et c'est là qu'il a délivré le peuple. Oui, monsieur. Dieu délivre par quoi? La foi dans sa parole. Ça a toujours été, nous pourrions examiner un peu ça si nous avions le temps, il nous reste encore 20 et quelques minutes. Nous pourrions examiner un peu Caïn et Abel, voir comment Caïn a essayé de plaire à Dieu par une belle présentation. Un autre moyen, les gens se disent, c'est par les grandes assemblées de gens bien habillés, par un prêtre avec des prédicateurs, avec des vêtements sacerdotaux et des chœurs en longue robe, et toute cette comédie, c'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est ce que vous pouvez voir d'où ça vient. Caïn a essayé de faire la même chose. Il s'est construit un autel, sans doute, qui l'a fait très attrayant. Et cet homme était sincère, il l'adorait, il se disait, pourvu que je sois sincère, ça ne fait pas de différence. Mais ça fait une différence, vous pouvez être sincèrement dans l'erreur. Remarquez, il a construit cet autel et il a dû mettre des fleurs, l'arranger, mettre des beaux fruits. Et il se disait certainement qu'un grand Dieu aussi saint, pur et magnifique acceptera ce sacrifice. Mais vous voyez, il a agi selon sa propre sagesse. Il a agi selon ses propres pensées. Et voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Ils agissent selon leur propre sagesse, selon leur instruction, selon leur éducation et la morale qu'on leur a inculquée. Mais Abel, par une révélation, par la foi, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Il n'y avait rien de propre là-dedans. Selon l'apparence, humainement parlant, le pauvre animal, il l'avait empoigné par le cou, il l'avait attaché avec une liane comme ça, il l'avait entraîné jusqu'à l'autel là, il n'y avait rien de beau là-dedans. Il l'avait couché sur l'autel, il martelait sa petite gorge avec un caillou tranchant jusqu'à ce que le sang gicle partout et qu'il l'agonise en bêlant. C'était un spectacle horrible, voyez? À regarder seulement, c'était simple. Dans sa simplicité, il savait qu'il était né du sang de sa mère et de son père, qu'il était né dans le sang de sa mère par le sang de son père, et c'était le sang qui avait causé la chute, donc c'était le sang qui devait rétablir tout cela. Alors il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent parce que cela lui avait été révélé. Et certains frères aujourd'hui qui pensent que ce sont des pommes et des poires qu'ils ont mangées, et ce que j'ai lu dans le journal l'autre jour, c'était bien le comble. Ils disaient que maintenant, ils ont démontré que ce n'était pas une pomme qu'ils avaient mangée. Je pense qu'ils prétendent que c'était un abricot. Alors, vous voyez d'où vient cet esprit? Et ils disaient, Moïse n'a jamais vraiment traversé la mer Rouge, mais c'était un tas de roseaux qu'il avait là-bas, une mer de roseaux. Il a fait passer les enfants d'Israël à travers cette mer de roseaux là-bas, au bout de la mer. Il y avait là un gros paquet de roseaux. Et Moïse a traversé la mer, mais c'était une mer de roseaux qu'il a traversée. Vous savez, de l'herbe haute, comme des joncs et des choses comme ça. C'est par là qu'il a traversé, comme c'est ridicule. Alors que l'eau, dit la Bible, s'est fendue sur la droite et sur la gauche, que Dieu a envoyé un puissant vent d'Orient pour la séparer. Voyez? Ils veulent essayer de résoudre cela à leur façon à eux. Et c'est la cause de ça qu'ils ont toujours échoué. Ils vont continuer à échouer. Vous savez, toutes ces choses. Et Caïn était le type même de l'homme à la pensée charnelle aujourd'hui, qui est religieux extérieurement. Il veut faire quelque chose extérieurement, mais il va à l'église et il va faire beaucoup de choses pour le bâtiment. Il n'y a qu'une seule église et celle-là, on n'y entre pas par adhésion. Les autres, là, ce sont des clubs, vous voyez. Vous adhérez au club méthodiste, au club baptiste, au club presbytérien, au club pentecôtiste, mais c'est par une naissance que vous entrez dans l'église. Oui, monsieur. Vous voyez, tous les autres, ce sont des clubs. Ce ne sont pas des églises, ce sont des clubs. Et l'église méthodiste ou l'église pentecôtiste, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, ça. Non, ce n'est pas ça du tout, vous voyez. C'est vrai, ce sont des clubs auxquels les gens adhèrent. Mais c'est par une naissance que vous entrez dans l'église du Dieu vivant. Et c'est le corps mystique de Jésus-Christ en train de se former. Mais donc, il a plu à Dieu de révéler son secret à Abel par la simple foi dans le sang versé. Oh, comme j'aimerais avoir le temps de m'attarder un peu là-dessus, voyez? Et pourtant, Caïn, avec toute sa sagesse, l'homme intelligent, où vous dites, Frère Branham, vous avez dit, vous essayez de le présenter comme un génie plein de connaissances. Il l'était. Il était intelligent. Suivez-le. Suivez sa lignée. Regardez ses enfants. C'étaient tous des enfants, des savants, des docteurs, des hommes intelligents, tous. Par contre, suivez les descendants de Seth. C'était des gens humbles, des paysans, des cultivateurs, et ainsi de suite, tout le long jusqu'à la destruction. Mais les enfants de Caïn, c'était ce groupe d'intellectuels, d'intelligents, même qu'ils savaient à ce qu'on prétend tremper le cuivre et qu'ils travaillaient les métaux. C'était des bâtisseurs, c'était des hommes intelligents, alors que les autres, ça, c'était des hommes qui habitaient simplement sous des tentes, qui gardaient leurs moutons, qui se reposaient sur les promesses de Dieu. Voyez? Vous voyez ce que c'était? Suivez donc les généalogies d'un bout à l'autre et voyez ce n'est pas vrai. Voyez, ils se reposaient sur la promesse de Dieu. C'est comme ça que Noé a été choisi par ce genre de personnes-là. C'est comme ça que Paul a été pris de son troupeau, voyez. C'est comme ça que John Wesley, Martin Luther et j'en passe. C'est comme ça que vous êtes devenus ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous voyez la même chose. Un, pour croire la simple promesse de Dieu. Maintenant, il a plu à Dieu d'identifier. Or, Dieu va toujours confirmer si oui ou non c'est la vérité. Voyez? Maintenant, bien des gens cherchent à faire quelque chose en jouant un rôle et Dieu reste éloigné de cela d'un million de mille. C'est vrai. Mais quand vous voyez que Dieu vient derrière et qu'il dit qu'il appuie cela, qu'il dit c'est exact, c'est exact, c'est exact, alors vous savez que c'est vrai. Donc, quand les offrandes ont été sur l'autel, Dieu a refusé sa conception intellectuelle de Dieu, mais quand il a vu Abel, qui, par une foi toute simple, croyait que ce n'était pas des pommes ou des fruits des champs, mais que c'était du sang, et il l'a cru par la foi, par une révélation de Dieu, Dieu a confirmé Adam en acceptant son sacrifice, vous voyez? C'est de là que nous avons l'idée de prier pour les malades et tout le reste. Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Maintenant, alors que nous continuons à avancer, nous allons nous dépêcher là. Il ne nous reste plus que 20 minutes. Remarquez, à l'époque d'Élie, Dieu a choisi de se cacher dans une personne toute simple. Maintenant, pensez un peu. Dieu a choisi. C'était son choix, lui. Rappelez-vous, ils avaient des rabbins, des sacrificateurs. Ils avaient de grands hommes en ces jours-là. Même le roi Achab lui-même, il était juif. Il avait de grands hommes dans le pays à cette époque-là. Mais Dieu s'est caché dans un homme tout simple, pas dans un érudit, non pas dans un homme réputé dans le monde, quelque grand génie militaire ou quelque chose du genre, non. Pas quelqu'un de renommé. Nous ne savons même pas qui était son papa et sa maman. Nous ne savons rien de sa généalogie. Il n'était rien de plus qu'un simple paysan quelque part qui avait été suscité dans le but d'être un prophète. Dieu l'avait amené à vivre tout seul dans le désert. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a surgi d'on ne sait où et qu'il s'est montré tout à coup. Il a condamné tout le système ecclésiastique. Oh là là! Et vous savez ce qu'ils ont pensé de lui? À quelle école est-il allé, voyez? À quelle dénomination appartient-il? Était-il avec les pharisiens, les sadducéens ou qui d'autre encore? Il n'appartenait à aucune d'entre elles. Au contraire, il condamnait tout cela. Voyez, Dieu a choisi d'agir comme ça. Rien qu'un homme tout simple, sans instruction. Nulle part il n'est dit qu'il est allé à l'école. On ne sait rien de lui, si ce n'était qu'un homme tout simple. Mais il a plu à Dieu de se cacher dans cette personne, toute simple. Dieu est là-bas avec cet homme tout simple, caché dans un être humain. Pouvez-vous saisir cela? Dieu caché dans un fanatique illettré aux yeux du monde. En effet, vous savez, ils l'ont accusé de tout, même d'être un magicien, Élie. Tous les prophètes se font accuser de ça, vous voyez. Alors Jésus s'est fait accuser de ça, vous voyez, d'être un Belzébul, d'être fou. Ils ont dit, voyons, tu es fou, oui, nous savons que tu as un démon, tu as perdu la tête, vous voyez. C'est là qu'il leur a dit que quand cela se reproduirait dans les derniers jours, que ce serait un blasphème de faire ça. Il leur a pardonné, mais ça ne sera pas pardonné dans ces derniers jours. Il faudra en payer le prix. La séparation éternelle, ça ne serait jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Donc, Élie passait pour fou. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il était là à affronter les femmes, se coupaient tous les cheveux comme les jours modernes, je suppose, et elles se maquillaient comme Jézabel, la première dame du pays, et tous les prédicateurs étaient tombés dans la mondanité et tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le vieil Élie qui arrive, qui condamne tout ça d'un bout à l'autre, en commençant par Jézabel jusqu'en bas. Et ils se sont dit, voyons, on n'est pas obligé d'être écouté, on a des pasteurs. C'est sûr, ils n'étaient pas obligés, mais il était leur pasteur quand même. Il était leur pasteur. Jézabel, elle ne voulait pas. Peut-être qu'elle en avait un d'un autre genre. Mais l'envoyé de Dieu, c'était lui. Vous voyez, il était le pasteur que Dieu avait envoyé pour elle. Elle le haïssait, mais il était le pasteur quand même. Et Élie s'humiliait, il s'en tenait à ce que Dieu disait à tel point que Dieu a trouvé bon de prendre ce même esprit d'Élie et il a promis de le faire descendre trois fois à partir de là. Vous voyez? Et il l'a fait. Amen. Assurément qu'il l'a fait. Assurément. Il a promis qu'il viendra. Il est venu sur Élisée, son successeur. Puis il est venu sur Jean-Baptiste. Et selon Malachie 4, il doit être de nouveau ici au dernier jour. Vous voyez? Dieu aimait cet esprit qui était sur cet homme des bois, simple et sans instruction, sorti de la forêt quelque part. Et tellement... Il était tellement obéissant à sa parole qu'il pouvait dire, « Élie fait ceci, Élie le faisait. » Et Dieu s'est caché là, dans une telle simplicité. Il disait tout de lui, ce vieux détraqué n'avait rien à faire avec lui et tout. Mais un jour, quand il s'est fait vu avec sa tête toute chauve et sa barbe grisonnante qui pendait, ses quelques rares cheveux qui lui tombaient sur les épaules, ses petits bras tout maigres avec la chair toute flaxe, il a descendu la route de Samarie, les yeux levés vers le ciel, un bâton noué à la main. Il n'était pas très beau à regarder, mais il avait l'ainsi dit le Seigneur pour son jour. Il n'a pas... Il n'a pas bafouillé avec... Il n'a pas bégayé, il n'a pas dit, eh bien, grand Achab, il est allé vers lui, il a dit, il ne tombera même pas de rosée du ciel, sinon à ma parole. Alléluia. Vous voyez, Dieu avait honoré sa simplicité. Ah, vous voyez, alors que c'était dans la simplicité et que tout le monde était contre lui, tout le monde lui en voulait. Toute l'association pastorale et tout le reste, il lui en voulait, c'est vrai, il essayait de se débarrasser de lui et de tout le reste, mais dans cette simplicité même, s'il refusait d'appuyer ses campagnes et tout ce qu'il pouvait faire, que tout le monde le prenait pour un fanatique, Dieu se cachait. Seulement, quand le moment est venu pour cette semence qui avait été plantée d'arriver à maturité, Dieu s'est manifesté en faisant descendre le feu du ciel et en consumant le sacrifice. Dieu se cachait dans la simplicité pour ensuite se révéler de nouveau. Voyez, certainement. Dieu a trouvé bon d'agir comme ça. Il a toujours agi de cette façon. Oui, monsieur. Donc, nous voyons qu'il a promis ces choses. Le problème aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons être tellement, vous savez, tellement orientés vers la formation reçue dans les séminaires et dans les dénominations que Dieu ne peut pas nous utiliser. Dieu peut donner à un homme ce qu'il faut pour commencer à faire quelque chose et lui donner un ministère. Mais avant longtemps, il va commencer à se plier au dire de tous et chacun et bientôt, il sera complètement absorbé par toutes sortes de choses. Alors Dieu enlève simplement ses mains sur lui et le laisse à lui-même, voyez. Ensuite, il essaiera de trouver un autre homme, quelqu'un qui fera le travail, voyez. Il doit trouver quelque chose qui prendra sa parole, qui prendra la révélation divine et qui n'en dévira pas, qui n'en s'en tiendra uniquement à cette parole. C'est comme ça qu'il fait. Il a toujours fait ça comme ça. Alors qu'un homme devient tellement instruit, tellement intelligent qu'il essaie d'introduire sa propre interprétation, eh bien, par exemple, ils disent le baptême du Saint-Esprit. Ils vont dire, oh, ça, c'était pour une autre époque. Ou bien, sinon, ce n'était pas pour une autre époque, mais je vais vous dire, il ne vient plus de la même manière qu'au jour de la Pentecôte. Nous recevons le Saint-Esprit quand nous croyons. Et toutes ces choses semblables, vous voyez? Et quand on parle du baptême au nom de Jésus-Christ, alors que c'est comme ça que la Bible l'enseigne, eh bien, vous dites, oui, mais le séminaire dit qu'un tel dit, ça y est, faire des compromis, vous voyez? Dieu ne peut pas utiliser une personne comme celle-là, vous voyez? Il peut permettre qu'un homme soit maltraité dans tout le pays comme ça, que cet homme soit chassé, qu'on rit et qu'on se moque de lui, et tout le reste comme ça, mais quand vient le moment de la véritable épreuve de force, Dieu se lève et il se confirme au milieu de cette même simplicité. Il va se lever tout d'un coup comme la fleur, la semence. On dirait qu'elle est arrivée à sa fin. Elle meurt et elle tombe en terre. Déterrer la petite semence, elle est pourrie. Elle n'est pas du tout belle à voir, mais de là surgit la vie pour encore reproduire une autre fleur. Dieu, dans la simplicité, il fait la même chose. La façon de monter, c'est de descendre. Toujours, humiliez-vous. N'allez jamais dire, eh bien, j'ai ceci, j'ai cela. Vous n'avez rien du tout. Mais souvenez-vous, si vous avez la grâce de Dieu, soyez-en simplement reconnaissant et soyez humble pour ça. Voyez, continuez simplement à vous humilier. Maintenant, il va falloir que je me dépêche parce que là, je ne veux pas vous retenir trop longtemps parce que je ne peux pas vous épuiser. On a encore beaucoup de temps à passer ici cette semaine. Bon, et donc, nous voyons que les gens deviennent tellement intelligents et tellement instruits. Maintenant, je veux vous montrer autre chose. Les autres, ils vont tellement loin dans l'autre sens qu'ils deviennent fanatiques à force d'essayer d'être religieux. Or, nous savons bien qu'il y a ce groupe-là aussi. Voyez, eux, ils partent dans l'autre sens. Voilà où je suis en désaccord avec ce groupe de frères ici qui se sont éloignés du chemin de la lumière il n'y a pas longtemps. Ils ne pouvaient pas voir comment le phénomène pourrait se produire s'ils ne formaient pas eux-mêmes un groupement. Alors, ils se sont rassemblés au Canada et ils ont formé un regroupement avec l'intention de se nommer entre eux des apôtres et des prophètes et ainsi de suite. Et le résultat, ça a été la chute, voyez? Et ce sera toujours comme ça, voyez? Ils pensent que parce qu'ils condamnent tellement les autres choses et tout, ils vont complètement dans l'autre sens, voyez? D'un côté, ils sont très intellectuels, froids et indifférents. Ils rejettent tout ce qu'il y a là. Et les autres se retrouvent de l'autre côté, avec le groupe d'extrémistes qui suivent leurs émotions et renient la parole. Mais la vraie, la véritable Église reste en plein milieu du chemin. Là, si vous remarquez, on a la connaissance biblique de ce que Dieu a dit. Et on est assez spirituel pour être chaleureux dans son cœur, et c'est simplement le chemin. Isaïe a dit que ce serait comme ça. Il a dit qu'il y aura une grande route. Et ses amis précieux, saints, bénis de l'Église des Nazaréens, le petit mouvement puissant que Dieu avait fait naître, mais à quoi est-ce qu'ils en sont arrivés? Quand Dieu a commencé à parler en langue dans l'Église, ils étaient si religieux, si formalistes qu'ils ont dit que c'était du diable. Et voyez ce qui leur est arrivé? Voyez? Plus saint que tu ne l'es. Et alors, nous voyons que toutes ces choses se dégradent et s'éteignent complètement, voyez? Ça, c'est l'autre côté. Donc, d'un côté, on devient fanatique. De l'autre côté, on devient froid et formaliste. Or, Isaïe a dit, il y aura une grande route. Et les Nazaréens et beaucoup de gens de la sainteté d'autrefois, ils disaient, la grande route bénie. Gloire à Dieu, nous marchons sur la grande route. Mais rappelez-vous, ce n'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a dit, il y aura une grande route et c'est une conjonction, et un chemin. Et on ne l'appellera pas la grande route de la sainteté, mais le chemin de la sainteté. Or, une grande route de la sainteté, les gens essaient de se rendre saints par eux-mêmes. Et quand vous le faites, c'est exactement comme je l'ai déjà dit. Ce serait comme une buse qui essaie de se mettre des plumes de colombe pour se transformer en colombe, alors que sa nature est toujours celle d'une buse. Voyez? Ce serait comme un corbeau qui essaie de se mettre des plumes d'un pigeon ou d'un paon qui dirait, vous voyez, je suis un oiseau magnifique. Vous voyez, c'est quelque chose de fabriqué. Mais un paon n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il aura des plumes de paon ou non. La colombe n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il aura des plumes de colombe ou non. Tant que sa nature est celle d'une colombe, elle aura des plumes de colombe. Et vous voyez, Les gens de la sainteté se sont mis à dire « Les femmes doivent porter les cheveux longs et des manches longues et toutes ces choses longues, des jupes longues, et elles ne doivent porter aucun anneau de mariage, ni bijoux, aucune sorte. » Vous voyez, c'est devenu une sainteté de pharisiens, vous voyez? Ça, c'est une sainteté fabriquée. Mais la vraie Église du Dieu vivant, et regardez ce qui est arrivé à cette dénomination. Maintenant, elles ont tous les cheveux coupés, comme les pentecôtistes et tout. Et elles portent presque toutes des bagues et tout. Regardez les pentecôtistes des années passées, comme ils n'arrêtaient pas de rabâcher ça. Vous voyez? Nous, l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est un individu parmi d'autres individus qui est né dans le royaume de Dieu. Ça vient de l'intérieur. Ça se vit automatiquement. Vous ne demandez pas à un mouton de produire de la laine ou de fabriquer de la laine, je veux dire. Le mouton n'a pas à fabriquer de la laine. Il dirait, « Eh bien, mon maître veut que j'aie de la laine cette année, je dois me mettre au travail. » Non, tout ce qu'il a à faire, c'est de rester un mouton. C'est vrai. La laine, elle va automatiquement, il va la produire parce que... De même, il ne nous a pas demandé de fabriquer des fruits. Nous sommes censés produire du fruit, voyez? Porter des fruits, voyez? Nous sommes censés porter du fruit. Et tant que vous êtes un arbre fruitier de Dieu, avec la parole de Dieu se confirmera elle-même. Il y aura du fruit pourvu que la parole soit à l'intérieur. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et ce sera accordé, voyez. Vous ne le fabriquez pas, vous ne vous efforcez pas d'y arriver. C'est tout simplement là et ça continue sans arrêt. Maintenant, allons-y, nous allons nous dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes et ensuite nous allons terminer. Donc, les autres, ils vont tellement loin qu'ils deviennent fanatiques. Alors, ils vont de l'autre côté. Ils pensent que juste parce qu'ils sautent en l'air, qu'ils éprouvent une sensation, une émotion quelconque, qu'ils parlent en langue ou qu'ils ont donné une prophétie, qu'ils s'est trouvé être juste ou quelque chose du genre, ils pensent que c'est cela et qu'ils l'ont. Mais ce n'est pas ça. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là et diront, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom? » Et par ton nom, fait beaucoup de miracles et chasser des démons. Il dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon ami. C'est pour cette raison que et les langues, comme preuve, je crois en parlant en langue, mais je ne reconnais pas ça comme la seule preuve qu'on a le Saint-Esprit. Non, monsieur, c'est le fruit de l'Esprit qui est la preuve, vous voyez. Oui, donc, vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai exprimé mon désaccord avec le mouvement de Pentecôte. Quand ses frères disent, si un homme parle en langue, il a le Saint-Esprit, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le signe qu'il a le Saint-Esprit, voyez. J'ai entendu des démons parler en langue. J'ai entendu des démons toute vitesse boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. J'ai vu des Indiens prendre des serpents et les enrouler autour d'eux dans la danse de la pluie là-bas en Arizona, tenir leurs mains en l'air comme ça et courir partout. Le sorcier est arrivé, il se donnait des coups de lance. Il a déposé là un crayon qui a écrit en langue inconnue. Il a donné l'interprétation. Ah non! Donc, le fruit de l'Esprit, Jésus a dit, c'est à leur fruit, par leur langue ou à leur émotion, mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez, voyez? Alors, c'est ça le fruit de l'Esprit. C'est Dieu qui se dévoile dans l'humilité, dans la douceur, et tous les jours pareil. Il y a quelque chose de spécial chez un homme qui reste tout le temps fidèle à la parole. Chaque fois qu'il voit la parole, il dit amen à cela. Peu importe ce que les autres peuvent dire, ça, il la croit, voyez? Mais on va assez loin pour se reposer du fanatisme. Alors, Satan s'introduit parmi les gens. Alors, il s'introduit parmi les gens pour leur faire croire qu'ils n'ont rien parce qu'ils peuvent sauter en l'air et ensuite haïr votre prochain. Non, de dire des choses et parler en langue d'une façon tout à fait merveilleuse et des choses comme ça. Et souvenez-vous, vous pouvez parler en langue authentique du Saint-Esprit et pourtant ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je suis comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13. Quand nous avons poussé des cris, nous l'avons, mais ils ne l'avaient pas. Les Nazaréens ont dit qu'en menant une vie sanctifiée, ils l'avaient, mais ils ne l'avaient pas. Les Pentecôtistes ont dit, nous parlons en langue, nous l'avons, mais ils ne l'avaient pas. C'est Dieu qui se dévoile, pas dans la sensation. Voyez leur place, ça devient tellement humble que n'importe qui peut le voir, à condition de ne pas essayer d'y mettre, d'y injecter votre pensée. Voyez, c'est Dieu. Alors, c'est là. Donc, ils deviennent une bande de fanatiques. Donc, ici, de ce côté-ci, il y a ceux qui sont froids et formalistes. Ici, de l'autre côté, il y a les fanatiques. Ici, il y a l'épouse qui avance tout droit à travers tout ça, faisant appel des deux côtés. C'est vrai, Dieu qui confirme cela au fur et à mesure, sa parole. Maintenant, il va falloir que j'en saute un peu parce que j'en ai trop ici. et j'ai mon temps est écoulé. Je vais faire aussi vite que possible. Dès l'Éden, il a été prophétisé qu'un Messie viendrait depuis tout là-bas en Éden. Maintenant, je vais sauter quelques références bibliques que j'avais inscrites ici et quelques notes pour pouvoir, si c'est possible, terminer le message à l'heure. Dieu caché dans l'humilité. Alors, je vais parler vite, mais je voudrais quand même que vous le saisissiez. Vous voyez? Depuis l'Éden, qu'il avait été prophétisé qu'un Messie viendrait, le genre de personne qu'il serait avait été prédit. On pourrait s'y attarder longtemps. Vous connaissez la Bible. Ce qu'il serait, le genre de personne qu'il serait. Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. » Il savait que ce Messie allait être un prophète et quel genre de ministère l'accompagnerait. Tous les prophètes ont parlé de ce qu'il ferait. Et ils en ont parlé en symbole. Il s'est passé complètement au-dessus de la tête des uns, tandis qu'il s'est passé complètement au-dessous de la tête des autres. Vous voyez, il s'est passé au-dessous de l'un, au-dessus de l'autre. Quand il a fait son entrée sur la scène du temps, les gens auxquels il avait été envoyé avaient déjà leur propre interprétation de ce qu'ils allaient être, ce qu'il allait l'être, selon leur propre interprétation imaginaire. La Bible n'a jamais changé. La Bible est toujours la même. C'est pour cette raison que je dis, l'Écriture dit, et je m'en tiens à cela, que la Bible ne peut être l'objet d'interprétation. Alors, vous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, n'essayez pas d'y ajouter votre interprétation en disant « ça ne veut pas dire cela ». Ça veut dire ceci. Ça veut dire exactement. Ça veut dire exactement. Comment est-ce que ça se peut? Je ne sais pas comment. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à Dieu de s'occuper de ça. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Mais ce Messie avait été prophétisé. Les prophètes avaient annoncé précisément comme il allait venir, ce qu'il allait faire quand il viendrait. Mais l'interprétation particulière qui s'en était faite, il s'était retrouvé au milieu du peuple. Et quand il était venu d'une telle simplicité, tellement simple que tout le groupe ecclésiastique s'y est achoppé. N'est-ce pas vrai? Ces hommes qui avaient été instruits. Un homme ne pouvait pas être un docteur sacrificateur à moins d'être né dans une certaine lignée, celle de Lévi. Et pensez-y, son arrière-grand-père était sacrificateur. Il passait tout son temps dans cette parole, dans le temple, jour et nuit. C'est comme le prêtre catholique ou le prédicateur qu'il est de père en fils, attaché depuis des générations à la même église et tout. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était un évêque méthodiste. Mon grand-père était évêque et tout. Voyez, tout cela, il vivait là, dans la parole, mais il l'avait arrangé à leur propre manière. Et les enfants avaient accepté ça de la manière dont leur père l'avait enseigné, si bien que l'enseignement des pères est sorti du vrai chemin. Ils en ont fait une telle organisation, si bien que quand l'Esprit a essayé de présenter la vérité, ils n'ont pas pu la recevoir. Et c'est pareil aujourd'hui. Je ne veux pas être impoli, mais c'est vrai. C'est pareil aujourd'hui. Ils rendent ça tellement compliqué et ils en changent tellement le sens. Ils enseignent, comme il a été dit, Dieu n'a pas de petits-enfants, vous savez. Dieu a des fils, il a des filles, mais pas de petits-fils ni de petites-filles. Chaque homme doit payer le même prix et venir de la même manière. Ce que votre père a fait, vous devez le faire aussi. Bon, donc, il était tellement simple, ce Messie, quand pendant 4000 ans, chaque prophète avait parlé de lui. David l'avait chanté, et ainsi de suite tout le long. Et quand il est venu, les gens s'étaient formés leur propre idée de ce qu'il devait faire, de la façon dont il ferait. Tout était expliqué, tracé sur des graphiques et tout, si bien que quand il est venu de cette manière toute simple, ça a complètement démoli leur théologie. Vous voyez, ils ne l'ont pas reconnu. C'est conformément à la parole qu'il est venu. Maintenant, est-ce que vous croyez que Dieu a annoncé par les prophètes que le Messie viendrait d'une manière bien précise? C'est dommage que nous n'ayons pas à peu près une heure encore devant nous pour expliquer comment ça s'est passé, vous voyez? Mais nous savons tous comment ça s'est passé, la plupart d'entre nous, comment Dieu dit qu'il viendrait, et comment toi, Bethléem de Judée, tu n'es pas la plus petite, et ainsi de suite, comme ça, d'un bout à l'autre, et comment cela agirait, et qui le ferait. Et pourtant, il était tellement simple que ces grands érudits avaient tellement tout mélangé qu'ils n'ont pas saisi. Mais vous saviez bien que Jésus n'est pas venu contrairement à la parole, il est venu conformément à la parole. Mais contrairement à leur interprétation, vous voyez, Il enseignait des choses qui allaient à l'encontre de la formation ecclésiastique qu'ils avaient reçue à son sujet. Bon, il disait là, par exemple, quand le Messie viendrait, certainement qu'il viendra au temple et qu'il dira « Caïphe », ou le nom qui suit le souverain sacrificateur, « Je suis arrivé ». Il viendra accompagné de 10 millions d'anges pour l'acclamer. Le Dieu dira « Très bien, les amis, en bas, vous êtes vraiment une église puissante, vous êtes mon descendant, la passerelle du ciel, je vous envoie le Messie ce matin. Elle va se poser juste ici dans la cour et tout le peuple ira là. On dirait « Docteur Intel », et vous, Docteur Intel, vous pouvez vous placer en avant pour l'accueillir en premier. » Et c'est peut-être un peu comme ça qu'il pense aujourd'hui. Maintenant, je sais que c'est un peu, ça peut sembler un peu téméraire, mais j'essaie de vous faire remarquer quelque chose. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et si ça n'arrive pas comme ça, ça n'est pas vrai. C'est un antichrist. Voyez, ça n'arrive pas exactement comme ça, c'est un antichrist. Voyez, alors ça ne sera pas ça. Alors ensuite, ce qui descendra ensuite, ce sera à peu près 10 millions d'anges pour l'acclamer avec leurs fanfares. Ils vont atterrir là-bas dans la cour où Salomon a construit le temple et où ils seront là un peu partout dans ce lieu saint où des saints et des sages sont morts et tout. Oui, Jésus a dit, vous hypocrites, vous fils du diable, il a dit, vous ornez les tombeaux des prophètes et ce sont vos pères qui les y ont mis. C'est vrai que d'hommes justes et de prophètes vous ont été envoyés et pourtant vous avez tué chacun d'eux. Voyez, mais quels sont ceux qu'ils appelaient justes? Alors, ceux qu'eux appelaient fanatiques et détraqués. Oui, là, ils pensaient que ces hommes, ça que ça arriverait. Mais quand il est arrivé dans une étable, né d'une vierge, avec un simple charpentier pour père nourricier, et une jeune fille inconnue, voyez, non pas la fille du souverain sacrificateur ou quoi encore, il est venu d'une petite dame qui vivait dans la région misérable de Nazareth. Et lui n'était qu'un simple veuf. Son épouse était morte. Il avait des enfants, Joseph. Et elle était fiancée. Et alors, il est arrivé avec une tache à sa réputation dès le départ. On disait de lui que c'était un enfant illégitime. Oh là là! Ça, c'était trop fort pour leur manière affinée. Les principes qu'on leur avait inculqués ne pouvaient pas avaler ça. Leur interprétation des Écritures ne savait rien à ce sujet. Mais c'était pourtant l'ainsi dit le Seigneur. Oh là là! Rien que d'y penser, j'en frémis. Et de voir la même chose qui se reproduit encore. Dieu ne peut pas changer. Il est déjà midi. Est-ce que je dois m'arrêter ou bien... Merci. Alors, restez bien tranquille encore un peu, vous voyez? Allez-y, continuez. Maintenant, ceci, c'est je suis en train de jeter les bases pour un message à venir, vous voyez? Et je vais tâcher de vous laisser sortir tout de suite, peut-être dans les 10 ou 15 prochaines minutes. Remarquez, donc, c'est tellement simple que pour eux, ça manquait le but. Mais c'était en plein dans le mille pour Dieu. Vous voyez, c'était en plein la parole. Et elle est venue très précisément de la façon dont il l'avait dit. Mais l'interprétation qu'ils en avaient faite était fausse. L'interprétation du libérateur à l'époque de Moïse était fausse. L'interprétation à l'époque de Noé était fausse. Vous voyez, mais Dieu vient conformément à sa parole. Et puis Jésus est venu. Et il enseignait des choses qui allaient à l'encontre. Si tu es le Messie, fais telle et telle chose, vous voyez. Si tu l'es, descends de la croix maintenant et montre-le-nous, vous voyez. Mais Dieu n'est pas là pour faire le bouffon. Dieu fait seulement les choses qui sont dignes d'approbation et qui sont bien. Il pensait que quelqu'un comme lui ne pourrait pas arriver autrement qu'accompagné d'une grande escorte d'anges. Seulement, il est arrivé dans une étable et selon les principes raffinés qu'ils avaient, c'était ridicule pour un être humain quelconque de penser que le Dieu Tout-Puissant, le grand et puissant Jéhovah, qui possédait la terre et qui avait créé tout cela, qu'il ne puisse pas préparer pour la naissance de son propre enfant quelque chose de mieux qu'une étable à vaches au-dessus d'un tas de fumier. Comment était-il possible? Voyez, qu'est-ce que c'était? Dieu, dans la simplicité, c'est ce qui le rendait si grand, voyez? Les grands principes de l'éducation ne peuvent pas s'abaisser jusque-là, voyez? Ils ne peuvent pas supporter ça. Mais Dieu est tellement grand qu'il s'est abaissé jusque-là, même pas de vêtements pour habiller son propre enfant. Pensez-y. Et le monde, il n'avait pas de place à l'auberge. Alors, il est allé dans une étable à vaches, dans un petit abri, un genre de petite grotte là-bas, dans le flanc d'une colline. Et c'est là, sur un lit de paille, que le Fils de Dieu est arrivé. Oh, c'était tout autre chose que de se rassembler là-bas. Et sa mère était enceinte. Elle s'était trouvée enceinte, oh, des mois avant même qu'ils soient fiancés. Ou avant même qu'ils soient mariés, vous voyez. Elle était enceinte. Et les gens le voyaient. Ils savaient bien que c'était bien. Et Marie, au fond de son cœur, elle savait ça, ce qui se passait. Et Joseph ne comprenait pas. Mais l'ange du Seigneur est venu le trouver une nuit et lui a dit, « Joseph, tu es un fils de David. Ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce n'est pas rien de mauvais, mais ça vient du Saint-Esprit. » C'était réglé. Cet homme, Joseph, était en rapport si étroit avec Dieu que Dieu pouvait lui parler. Mais aujourd'hui, nous boutonnons nos vestes ecclésiastiques tellement serrées que personne ne peut pas nous parler, excepté le groupe ecclésiastique auquel nous appartenons. Je ne veux pas devenir tranchant ou radical, alors je n'irai pas plus loin. Remarquez. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Remarquez. Une étable. C'était ridicule, selon eux. Les esprits raffinés. Nous n'avons aucune information pour nous dire qu'ils soient déjà allés à l'école, même un seul jour. Et pourtant, à l'âge de 12 ans, un simple garçon a confondu les sacrificateurs du temple par son enseignement. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Dieu se cachait. Je me sens pas mal religieux en ce moment. Dieu se cachait dans une étable. Dieu se cachait dans un petit enfant. Voyez? Mais attention, ça allait commencer à se manifester au bout de quelque temps, voyez? Quand il allait dans la rue, sans doute que les parents y parlaient. Ils disaient, ne joue pas avec cet enfant-là, n'aie rien à voir avec lui. Sa mère n'est qu'une vulgaire prostituée, tu vois. Et le père et la mère et le bébé est né avant qu'il se marie. Elle était déjà enceinte. N'aie rien à voir avec ça. Ce que Marie pense, ce que Marie pouvait penser, mais somme toute, peu importe ce que ceux du dehors pouvaient penser, elle méditait toutes ces choses. Ils les cachaient dans leur cœur. Ils savaient, ils ne pouvaient rien leur dire contre. Parfois, Dieu parle à son homme et il dit, « Garde le silence, n'en parle pas. » Il y a des gens dans mes réunions qui m'ont dit, « Mais si vous êtes un serviteur de Christ, vous savez ce qui se passe là-bas. » Bien sûr que je savais ce qui se passait. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand il dit, « Garde le silence, n'en parle pas. » L'autre jour, quelques hommes étaient avec moi et je leur ai montré dans un carnet. J'ai dit, « C'est quelque chose qui a été prononcé il y a des années. » Eh bien, je n'arrivais pas à comprendre ça. J'ai dit, « Voyez là, c'était là, bien noté. » J'ai mis la date, tout. Quand c'est arrivé à l'époque, bien des gens l'avaient vu dans le carnet. J'avais dit, « Il arriva de telle chose de telle manière. » Ils disaient, « Alors, pourquoi est-ce que vous m'en avez pas parlé? » Il fallait que ça arrive comme ça, voyez? Et Joseph savait que ce n'était pas ça. Il savait à qui ce bébé appartenait. Marie savait à qui il appartenait. Jésus savait qui était son père. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Non pas scier du bois et faire une porte, mais s'occuper des affaires de son père. Amen. C'est ce qu'il a dit à sa mère. Tu ne comprends donc pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon père? Et il pensait cette espèce de petit trimbé. Un enfant illégitime, c'est toujours quelque chose d'un peu bizarre, étrange de toute façon. Alors, voyez, mais Dieu se cachait. Écoutez, Dieu se cachait dans ce qui se passait aux yeux du monde pour de la souillure, de la corruption, quelque chose d'illégitime. Regardez, Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte pour produire la vie. Voyez, vous saisissez? Dieu se cache dans une simple petite blanchisseuse ou dans un homme ordinaire qui part avec son repas du midi sous le bras et qui embrasse son épouse et ses enfants avant de partir et peut-être qu'il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose dont l'archevêque ne sera rien du tout. Vous voyez? Vous ne l'entendez pas sonner de la trompette et diffuser cela. Dieu en reçoit la gloire. Voilà tout. Les simples l'entendent et se réjouissent. Vous voyez? Donc, Dieu se cachait dans la simplicité d'un bébé. Il se cachait dans la simplicité d'une femme ordinaire. Dieu et les ecclésiastiques et les grands hommes et les cerveaux, les génies et tous ceux-là, les Hérodes et ainsi de suite de ce jour-là, et les Nérons, et ça leur a tous échappé. Dieu caché dans la simplicité. Maintenant, dépêchons-nous. Jean-Baptiste dans Ésaïe 40. On pourrait le prendre, si vous voulez, Malachie 3 et tout. Oui, notez-le, si vous voulez, Ésaïe 40 et tout. Vous savez, qui parle de paix pour comme ça, peut-être, il serait peut-être bon que je... Vous savez le temps? Lisons-le, ça ne prend aucun instant. On va prendre le livre d'Ésaïe ici au chapitre 40 et on va le lire ça pour voir ce qu'il a dit là-dessus. Regardez bien. Consolez, consolez mon peuple. Maintenant, rappelez-vous ça, c'était 712 ans. Regardez la rubrique là, vous voyez, 712 ans avant sa naissance et ici, c'est un prophète qui parle. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Prononcez des paroles réconfortantes à Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez son sentier dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Et que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits se changent en vallons. Oh là là! Quel homme ça allait être, voyez? Maintenant, prenez Malachie avec moi, le dernier livre, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, dans Malachie, écoutez bien, là, Malachie reprend ça juste au temps de la fin pour s'assurer que vous ne l'oubliez pas. Malachie, chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Encore là, il est question de Jean. J'enverrai mon messager devant moi pour préparer le chemin. Jésus en a parlé dans Matthieu 11, 10. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont il a été dit, voici, j'envoie mon messager devant ma face. Voyez, c'est juste. Donc, combien tout cela annonçait alors qu'il y avait 700 ans qu'un précurseur devait venir avant le Messie? Mais quand il est arrivé, c'était dans une telle simplicité qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Rappelez-vous, il était le fils de sacrificateur. Alors, vous voyez comme c'était absurde de sa part de ne pas reprendre les fonctions de son père, de ne pas rentrer au séminaire, mais son travail était trop important. À l'âge de 9 ans, il est allé au désert et quand il en est sorti, il prêchait. Ils n'ont pas compris. Il était tellement simple, trop simple, pour que leur instruction hautement raffinée puisse croire quelqu'un comme lui. Ils se sont dit quand cet homme a paru, « Mais qu'en est-il de tous les lieux élevés seront rabaissés, tous les lieux bas seront relevés, tous les lieux raboteux seront raplanis? » David avait vu cela. Il avait dit que les montagnes sautaient comme des petits béliers et que les feuilles tapaient des mains. Quoi? Est-ce arrivé? Un espèce de vieux barbu comme ça, sans aucune instruction, enveloppé d'un morceau de peau de mouton, est sorti en chancelant du désert de Judée. Il a dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et vous, bande de serpents, ne prenez pas dire, « J'appartiens à une certaine organisation. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Oh là là! Eh bien, ce n'est pas lui, ça. Nous le savons que ce n'est pas lui. Mais c'était lui! Vous voyez, il nettoyait le sentier, vous voyez. C'est là que les lieux raboteux ont été aplanis. C'est là que les lieux élevés ont été abaissés. Ne dites pas en vous-même que vous avez Abraham pour père. Ne commencez pas à me tenir ce genre de propos-là, parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les lieux élevés ont été abaissés. Oh là là! C'est ça. Oui. Voyez la différence? Il avait dit que c'est ce qui se produirait. Et quand ils sont venus là, ils se disaient, « Oh là, ils étaient bien prêts à le recevoir, à condition qu'ils viennent dans leur organisation à eux. » Mais parce qu'il est venu comme ça, dans une telle simplicité, et pourtant, les Écritures, les lieux élevés avaient été abaissés, et eux ne voulaient pas l'accepter, mais il avait été abaissé. Oh, ce qui les a sonnés, il les a secoués. Il ne s'est vraiment pas gêné. Il a dit, « Vous, bande de vipères, vous, serpents dans l'herbe, je vous le déclare, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. » Moi, je vous baptiserai d'eau, mais il en vient un après moi qui est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera entièrement les airs, il brûlera la paille, il emportera le blé au grenier. Amen. C'est là que les lieux raboteux ont été aplanis. Voyez, seulement les gens ne l'ont pas compris, mais c'était tout à fait selon la parole, tout à fait comme la parole l'avait dit. Tellement simple qu'ils ont passé à côté, ils ne l'ont pas vu. Ne soyez pas aveugles à ce point-là, voyez, ne soyez pas aveugles à ce point-là. Ils l'ont passé à côté, Il était tellement simple par rapport à l'opinion courante qu'on avait d'une telle personne qu'il ne correspondait pas. Là encore, qu'est-ce que c'était? Dieu qui est la parole cachée dans la simplicité. Pas un prêtre avec son col tourné vers l'arrière qui était intelligent, instruit. Jésus leur a demandé la même chose. Il a dit, « Qu'êtes-vous allé voir? » Quand les disciples de Jean sont venus vers lui, il a dit, « Qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'une soutane de prêtre, vous savez, et d'habits précieux? » Il a dit, ce genre de prédicateur-là, il a dit, « Est-ce que c'est ça que vous êtes allé voir? » Il a dit, « Non, ceux-là, ils embrassent les bébés, vous savez, ils enterrent les morts, ils ne connaissent rien d'une épée à deux mains sur le champ de bataille. Ils étaient là quand il s'est agi de prononcer un discours intellectuel au club Kiwanis ou quelque chose. Vous savez, là, ils sont très bien, mais pour ce qui est d'aller au combat et d'y faire face, ça, ils n'en savent rien. Ils sont dans les palais des rois, ils perdent leur temps avec des célébrités de ce genre-là. » Mais elle a dit, « Alors, qu'êtes-vous allé voir? Êtes-vous allé voir un roseau agité par tout vent? » Un homme dirait, quelqu'un dit, « Tu sais, tu appartiens aux unitaires, mais si tu acceptes de te joindre aux assemblées, je vais te dire ce que je vais faire. Nous ferons, je pense que c'est ce que je vais faire. Un roseau agité. Pas Jean. Non, non, non. Si tu acceptes de devenir saducéen, non pas pharisien ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas vu quelqu'un qui était agité par le vent? Pas Jean. Oh non, frère, pas lui. Il a dit, alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il faudrait être prophète pour faire ça, vous voyez. Oh, c'était là le signe d'un prophète, vous voyez, la parole de Dieu avec lui. La parole vient au prophète, vous voyez. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il a dit, oui, c'est vrai, mais je vous dis même plus qu'un prophète. Car c'est ce qu'il était. Pourquoi était-il plus qu'un prophète? Il était le messager de l'Alliance, assurément qu'il l'était. Celui qui a jeté le pont entre la loi et la grâce. Il était la clé de voûte dont il avait été parlé. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont le prophète a parlé. Voici, dans Malachie, j'enverrai mon messager devant ma face. Voyez, il préparera le chemin devant moi. Voyez, oui, il était si simple. De nouveau, Dieu caché dans la simplicité. Alors, observez ce qu'il a fait. Il a prêché la venue d'un Christ si puissant. Il a son vent dans la main. Il va et nettoie tout sur son passage. Ça, oui, je vous le dis, il va nettoyer entièrement César. Il va ramasser les déchets, les envoyer là-bas d'un coup de balai et les brûler. C'est vrai, il va amasser le grain et l'emporter au grenier. Vous voyez, il était inspiré. Mais quand Jésus est venu, il s'attendait, et tous les apôtres, vous savez, ils s'attendaient à quelque chose de glorieux. Oh là là, il vient, ça, c'est sûr et certain. Il sera puissant, il va exterminer les Romains de la surface de la terre. Oh là, il va renvoyer les Grecs par ici et les Romains par là, et quand il va arriver? Et quand il est arrivé, c'était un petit homme, humble, tout le monde lui marchait sur les pieds. Qu'est-ce que c'était? Dieu, qui se cachait dans la simplicité. Oh là là. Et puis, quand il s'est tenu là, à la fin de son message, il a dit, « Qui peut me déclarer coupable de péché? Tout ce que la Bible a dit que je ferai, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Mais qu'est-ce que les Écritures avaient annoncé à mon sujet et que je n'ai pas fait? » Le péché, c'est l'incrédulité, vous savez. Qui peut m'accuser si je chasse les démons par les doigts de Dieu? Alors montrez-moi ce que vous en faites, la simplicité. Il s'est même abandonné à la mort. Mais oh, en ce matin de Pâques, alléluia, c'est là qu'il a nettoyé son air. Il a vraiment balayé les déchets, frère. Oh oui, et le blé a été scellé pour le grenier. Il repose là dans la terre avec la vie éternelle à l'intérieur en attendant ce grand jour dont nous allons parler, la venue du Seigneur, quand cette vie prendra vie. Et alors nous nous lèverons dans cette résurrection et nous serons enlevés avec lui dans les airs pour être rassemblés au grenier. Et les déchets seront brûlés là-bas. La balle qui l'enveloppait et qui essayait de l'entraîner ici ou là sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Oh, n'est-il pas merveilleux? Ils ne l'ont pas reconnu, Dieu, dans la simplicité. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas jamais employé des termes ecclésiastiques dans ses prédications? Jamais. Il n'a jamais prêché comme un prédicateur, vous voyez? Prêchait comme il employait les termes de la simplicité de Dieu. Les termes, la cognée émise, les termes comme arbre, les termes comme serpent. Il n'a pas fait comme un professeur de séminaire, comme quelqu'un des ordres ecclésiastiques de l'époque, comme un docteur en théologie, le docteur Intel. Il n'a pas fait ça. Il prêchait comme un homme, des bois là-bas, quelque part. Il parlait de cognées d'arbres, de serpents, de choses comme ça, de blé, de grenier, tout ça. Aujourd'hui, on le considérerait comme un, j'imagine, comme un prédicateur de caisse à savon. Je pense qu'à l'époque, on l'appelait prédicateur de souche parce qu'il se tenait debout sur une souche. Dieu dans la simplicité cachée de la sagesse du monde. Maintenant, voyons. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et ce que tu les as révélées aux bébés qui voudront apprendre. Voyez, Dieu caché dans la simplicité en Christ. Dieu caché dans la simplicité en Jean. Voyez, simplement, voyez, il était, pensez-y un peu, Dieu dans la simplicité qui se cache de la sagesse du monde. Maintenant, nous allons terminer dans une minute ou deux, parce que je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Regardez, arrêtons-nous juste un instant. Quelque chose de personnel. Pensez à un jour, celui où nous vivons. Nous allons maintenant conclure avec « Pensez au jour où nous vivons, où Dieu est descendu dans cet ombre petit lieu que nous avons pris comme demeure. Il a guéri les malades, alors que les riches, les hautains et les grands érudits, le temps des miracles est passé, la guérison divine, ça n'existe pas. » Vous rappelez le message que j'ai prêché sur ce terrain même le matin de mon départ sur David et Goliath. On m'a dit, comment allez-vous faire pour affronter ce monde instruit là-bas, frère Branham? Avec tout cela, j'ai dit, ce n'est pas mon affaire de savoir comment je vais faire. Dieu a dit, vas-y. Un point, c'est tout. Vous voyez, c'est sa parole, il l'a promis, l'heure est venue. Quand cet ange que vous voyez sur cette photo là-bas est descendu sur la rivière ce jour-là, il y aura 30 ans en juin ou 33 ans en juin, et qu'il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé devant au moins 5000 personnes, l'heure est venue où ton message va sillonner le monde. Vous rappelez la critique, si certains d'entre vous étaient là, que Roy Slaughter ou quelques-uns de ceux qui étaient assis ici doivent se rappeler le jour-là, ou quelques-uns, Mme Spencer, ou certains des gens âgés ici qui en auraient eu connaissance, vous voyez, George Wright, ou quelques-uns de ceux-là, vous voyez, ils le savent. Comment ça s'est passé? N'est-ce pas? Et ensuite, au beau milieu, quand ça a été le rejet, qu'on disait, ce n'est qu'une guérison psychologique, alors Dieu a riposté en envoyant un vieil opossum sans intelligence qui a été guéri par la puissance de Dieu. Lyle Wood et Banks, quand nous étions assis là, connaissant la vérité confirmée par Dieu, là, un petit poisson mort, un veyron flottait sur l'eau, et le Saint-Esprit avait déclaré la veille qu'il allait leur montrer sa gloire et faire quelque chose en rapport avec ça. Et voilà que ce matin-là, nous étions là, et le Saint-Esprit est descendu dans le bateau, et je me suis levé, et j'ai parlé de ce poisson. Il flottait sur l'eau, mort depuis une demi-heure déjà, ses branchies et ses entrailles avaient été arrachées, ça lui sortait par la bouche, il est revenu à la vie, il s'est éloigné en nageant aussi bien que n'importe quel autre poisson. Qu'est-ce que Dieu caché dans la simplicité de Saint-Pierre? Dieu peut citer des enfants et Abraham. Dieu peut guérir un opossum, un poisson, n'importe quoi. S'il apporte son message et que les gens le refusent d'y croire, Dieu peut susciter un opossum pour y croire. Alléluia. Dieu peut ressusciter un poisson mort. Il peut ressusciter un opossum mort. Il peut ressusciter un opossum mort. Il peut faire tout ce qu'il veut. Quelle réprimande adressée à cette génération-ci. Pendant qu'ils s'y achoppent, qu'ils font des histoires là-dessus, ils vont, n'avaient pas fait ceci, fait cela. Alors Dieu envoie un simple animal, voyez. Quelle réprimande. Qu'est-ce que c'était? Dieu, dans la simplicité, voyez, qui montre sa grandeur. Oh là là. Une réprimande adressée aux hommes de cette génération à cause de leur incrédulité. Or, ils pensent maintenant, comme ils l'ont toujours fait, qu'il faut que ça se fasse à leur manière. Mais si la guérison divine existait, par un exemple, un catholique me disait, un homme me parlait de ça l'autre soir, vous êtes au courant, il disait, se dénommer Ayers, j'étais allé voir à Houston à cause de son fils, il disait, mais voyons, si c'était un don de Dieu, il faudrait qu'il vienne de l'Église catholique, voyez? Oui, les méthodistes pensaient qu'il faudrait que cela vienne de leur Église, et les pentecôtistes pensaient qu'il faudrait que cela vienne de leur Église, mais il n'est venu d'aucune d'entre elles. Il est venu dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui se manifeste lui-même. C'est vrai, certainement qu'il le fait. Observez-le bien, que cela ne vous échappe pas. Gardez-le dans votre cœur et souvenez-vous-en. Méditez-le intérieurement. Il faut que ça vienne à leur manière à eux, pour que leur dénomination à eux, sinon ce n'est pas lui. Vous voyez, ce n'est pas de la sociologie ou c'est du diable. Ce n'est pas Dieu. C'est en effet, si c'était Dieu, il faudrait qu'il vienne à leur manière à eux, vous voyez, de la manière dont nous l'interprétons. C'est de cette manière que Jésus devait venir chez les pharisiens. Il fallait que ça se passe comme ça, vous voyez. Dieu allait leur envoyer un Messie. Il avait déjà leur interprétation toute prête de comment il devrait être. Et parce qu'il est devenu différemment, alors ce n'était pas le Messie. Il était quelque chose d'illégitime. Il était Belzébul. Mais c'était Dieu qui se cachait dans la simplicité. Le précurseur, il fallait que ce soit un certain homme instruit et bien quelqu'un, sans doute chaque jour, chaque année, quand, oui, il leur donnait leur prédicateur, qu'il les envoyait comme un missionnaire pour faire des prosélytes et en ramener chacun d'eux. On pensait que c'est lui, le précurseur. Mais Dieu l'a fait venir du désert, où il n'y avait pas de séminaire du tout. Vous voyez, il n'y a rien comme ça, vous voyez. Dieu caché dans l'humilité et dans la simplicité. Mais attendez un peu, disons ceci pour conclure, mais de rejeter le message simple de Dieu, de rejeter cela, la manière simple de Dieu, c'est d'être détruit éternellement. Alors voilà à quel point nous parlons de combien c'est simple. Alors les gens s'imaginent eh bien qu'ils peuvent s'en moquer, le fouler aux pieds, le traiter comme ça leur chante, mais alors c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ceux qui sont morts du temps de Noé, qui n'avaient pas écouté son message, ils ont péri. Et Jésus est allé leur prêcher dans les chaînes des ténèbres pendant sa mort, avant sa résurrection. Il est allé dans le séjour des morts, prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au temps de la patience des jours de Noé, alors qu'un message tout simple de Dieu avait été prêché par un homme tout simple. Il y est allé, il a dit, « Noé a prêché que je viendrai et me voici. » C'est vrai, voyez. Ceux qui n'ont pas écouté le message de ce prophète, Moïse, là-bas dans le désert, message qu'il avait reçu de Dieu et qu'il avait été correctement confirmé par une colonne de feu alors qu'il avait été conduit dans le désert, et ensuite pour avoir essayé de s'élever et d'en faire une organisation, ils ont tous péri et sont tous morts dans le désert, tous sauf deux hommes comme Josué et Caleb. Les pharisiens étaient tellement aveugles qu'ils ne pouvaient pas voir ça. Alors, ils regardaient au passé en disant, « Nos pères ont mangé la manne, ont mangé la manne dans le désert. » Et Jésus a dit, « Ils sont tous morts. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont marché dans la lumière. Ils ont marché dans la lumière de la colonne de feu. Ils ont marché dans la présence de sa puissance. Ils ont passé par le lieu que le Saint-Esprit avait préparé pour qu'ils y marchent. Ils ont marché la manne, mangé la manne qui tombait du ciel, que Dieu avait pourvu. » Et perdus, ils sont allés dans le séjour des morts, ils sont tous morts. Si vous vérifiez ce mot, ça veut dire séparation éternelle de la présence de Dieu, ils sont tous morts. Tous ceux qui ont refusé Jésus ont péri. Vous voyez ce que je veux dire? Refuser cette simplicité de Dieu, ce n'est simplement pas quelque chose. Vous dites, eh bien, j'ai commis une erreur. Vous ne pouvez pas faire ça. Dieu n'accepte pas ça comme ça. Vous allez périr éternellement. Nous ferions mieux de réfléchir à quelque chose en ce moment. Donc, il faut que ce soit correctement identifié par Dieu, vous voyez? Et si ça l'est, alors c'est sa parole, vous voyez? Oh, comme ceux qui ont rejeté Moïse, qui ont rejeté Élie, qui ont rejeté Jean, qui ont rejeté Jésus à leur époque. Tenez, je vais vous dire une toute petite chose, et après, j'espère que vous ne faites pas trop mal. Mais regardez, l'autre jour, on m'a fait venir à Houston, au Texas, pour essayer d'obtenir que quelqu'un soit gracié. J'avais rassemblé quelques personnes pour prêcher un message afin d'amener les gens là-bas à signer la grâce de ce jeune homme et de cette jeune fille. Vous savez, il s'était mis dans des difficultés. Je pense que vous avez dû lire dans les journaux. Il s'agissait là du beau-fils de M. Iyer. Et M. Iyer, c'est celui qui a pris la photo de l'ange du Seigneur, celle que vous voyez juste là, un catholique romain, et son épouse était juive. Ils avaient épousé cette jeune fille juive. Ils ne discutaient jamais de religion ensemble, ni rien comme ça, avec Ted Kipperman, qui était associé en affaires avec lui. Ils étaient propriétaires des studios Douglas. Et quand il est arrivé là-bas, c'est là que M. Bess, le Dr. Bess de l'Église Baptiste, a brandi son poing sous le nez de Frère Bosworth en disant, « Prenez donc ma photo en même temps. » Il a dit, « Je vais prendre la photo de ce vieux bonhomme et de l'accrocher dans mon bureau comme un monument à la guérison divine. » Avant mon départ de Houston au Texas, le Seigneur m'avait dit d'y aller. Alors j'y étais au nom du Seigneur. Et vous êtes tous au courant de débats et des choses qui se sont passées. Vous l'avez lu dans les brochures et tout. Alors voilà, ce soir, j'ai essayé simplement de marcher dans l'humilité. Voyons, il disait, c'est une bande d'ignorants. Le Dr. Bess disait, ce n'est qu'une bande d'ignorants. Il a dit, personne ne peut croire à la guérison divine, à des sornettes pareilles. C'est une bande d'arriérés. Ils ne savent pas que c'était Dieu dans cette simplicité. Il a dit, cet homme... là, n'a même pas une instruction primaire. Lui, il avait tous les diplômes possibles, alors il pensait qu'il ne ferait qu'une bouchée de Frère Bosworth. Mais pour ce qui est de la parole, il n'y arrivait même pas à la cheville. Alors, beaucoup de personnes se sont assemblées qui sont assises ici, étaient présentes à ce débat. Donc, il se répandait en injures et nous traitant de bande d'ignorants. Il disait, les gens sensés ne croient pas ça. Frère Bosworth a dit, un instant, il a dit, combien y a-t-il de personnes de cette ville alors qu'il y avait environ 30 000 personnes assises avec nous ce soir-là? Combien y a-t-il de personnes de cette ville qui fréquentent cette belle grande église baptiste et qui veulent prouver par un certificat médical qu'elles ont été guéries par la puissance de Dieu depuis que Frère Branham est en ville? Levez-vous. Et 300 personnes se sont levées. Qu'est-ce que vous dites de ça? Voilà, Dieu se cachait dans la simplicité. Ensuite, il a dit, frère, venez, faites venir le guérisseur divin, que je le voie hypnotiser quelqu'un et j'aimerais revoir cette personne dans un an. Et ailleurs, celui-là même qui a pris la photo, il a dit, Monsieur Branham n'est qu'un hypnotiseur. J'ai vu une femme qui avait un gloire comme ça à la gorge. Il a dit, il a hypnotisé cette femme. Le lendemain, il lui a parlé, il n'avait plus de gloire. Cet homme l'a hypnotisé. Il n'a fait que me ridiculiser. Il a dit que je devais être chassé de la ville. Il devait être même le faire lui-même. Vous voyez, il continuait de plus belle. C'était en gros titre, en première page de Houston. Je n'ai pas dit un mot. J'étais là pour m'occuper des affaires de mon père. Un point, c'est tout. Pour rester fidèle à cette parole, c'est lui qui m'avait envoyé là. Alors, c'était son affaire. Je ne suis pas un guérisseur du vin, je ne le suis pas. S'il y en a qui le disent, j'ai dit, ils se trompent. Je ne veux pas qu'on m'appelle un guérisseur du vin. J'ai dit, le docteur Burse, il prêche le salut. Il ne voudrait pas qu'on l'appelle un sauveur du vin pour autant. J'ai dit, dans le même sens, moi, je prêche la guérison divine. Je ne veux pas qu'on m'appelle un guérisseur du vin. Mais c'est par... Et moi, je ne suis pas un guérisseur du vin non plus, mais c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est cela que je cherche à vous savoir. Et alors, lui, foutaise, vous savez, il ne tenait pas en place. Mais si c'est la présence et ce don de Dieu, cet ange du Seigneur, si c'est cela qui est mis en doute, cela peut être prouvé. À peu près au même moment, elle est descendue en tournoyant. J'ai dit, je n'ai plus besoin de parler à présent. Il a déjà parlé pour moi et je suis parti. Je suis allé à Houston, cette grande ville, une des plus belles villes de tout le pays. Quand j'y suis allé, l'autre jour, cette ville, elle faisait pitié à voir. Les rues étaient malpropres. Les comptoirs de cet établissement-là, sur l'avenue Texas. Je suis allé à l'Hôtel Rice, là où les vedettes de cinéma logeaient autrefois. Je suis descendu au sous-sol, là. La cafétéria, le plafond était décrépit. Il y avait des morceaux de plâtre par terre, de la souillure, de la saleté, de la confusion parmi les prédicateurs, comme il n'y en a jamais eu, comme je n'ai jamais entendu parler. Pourquoi ça? Refuser la lumière, c'est marcher dans les ténèbres. Et voilà leurs enfants qui sont condamnés à mort. C'est vrai. Dieu est descendu quand la simplicité a été présentée et rejetée. Alors, Dieu s'est montré dans la simplicité. Et c'est là qu'ils ont pris cette photo qui a parcouru le monde entier. Même les savants ont déclaré que c'est le seul être surnaturel qui a jamais été pris en photo dans toute l'histoire du monde. Et elle est là accrochée à Washington, D.C., dans la Galerie des arts religieux. Voilà, la simplicité manifestée cette fois. Voyez? Dieu se cache dans la simplicité et ensuite, il se manifeste, voyez? Or, il s'est caché dans la mort de Christ, mais il s'est manifesté dans la résurrection. Oh là là! Et ainsi de suite, vous pouvez, on ne peut pas, il n'y a pas de fin à cela. On peut simplement en parler sans arrêt, mais c'est ça, vous voyez? Nier l'existence du soleil, c'est aller au sous-sol et fermer les yeux à la lumière. Et c'est vrai. Et souvenez-vous, le seul moyen pour vous d'être dans l'erreur, c'est de refuser d'abord la vérité, vous voyez? Et si vous refusez d'ouvrir les yeux, vous vivrez dans les ténèbres, vous voyez? Si vous refusez de regarder comment allez-vous voir... Voyez, soyez attentifs aux choses simples. Ce sont les petites choses que vous ne faites pas et non pas les grandes que vous faites, cherchez à faire. Oh là là! Alors, regardez, je vais vous le lire. Dans Matthieu 11, 10, il a dit, si vous pouvez le comprendre, c'est lui. C'est lui qui a été envoyé devant moi. C'était la simplicité. On lui a demandé un jour, on lui a dit, pourquoi donc les scribes disent-ils que... Il a dit, le Fils de l'homme doit monter à Jérusalem. Je serai livré entre les mains des pécheurs et ceux-ci mettront en mort le Fils de l'homme. Il mourra et le troisième jour, il ressuscitera. Il a dit, ne parlez à personne de la vision là-haut. Et les disciples, pensez-y là, c'était des disciples qui avaient marché avec Jean, qui avaient parlé avec lui, qui avaient mangé avec lui dans le désert, qui s'étaient assis sur la berge. Ils ont dit, pourquoi les docteurs du style qu'Élie doit venir premièrement? Tu dis que tu montes là-bas pour être crucifié et que tu vas ressusciter, que tu es le Messie qui doit monter sur le trône. Mais alors, pourquoi est-ce que les scribes, toutes nos Écritures disent ici, les Écritures disent clairement qu'avant que le Christ vienne, il y viendra premièrement. Oui, vous voyez, il a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et eux, c'était qui? Les disciples. Je vais blesser un petit peu là, mais je ne le fais pas exprès, vous voyez, pendant les quelques minutes qui vont suivre, vous voyez, juste une minute ou deux, mais c'est peut-être pour être bien sûr que vous aurez compris. Vous m'entendez bien? Pourquoi ces hommes qui avaient marché avec Christ, pourquoi les Écritures disent-elles d'abord qu'Élie doit venir? Et c'était ceux-là même qui s'étaient convertis par Jean, et ils ne l'avaient même pas reconnu. Pourquoi les Écritures ont-elles dit, les docteurs? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les Écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement? Des disciples qui avaient marché avec lui. Pourquoi les Écritures disent-elles qu'il doit venir premièrement? Avant ces choses et rétablir toutes choses. Il l'avait fait pour environ une demi-douzaine de personnes. C'est tout ce qu'il y avait, vous voyez? C'étaient les seuls qui devaient le recevoir. C'était ceux-là qui étaient destinés à le voir. Jésus a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu, mais il a fait exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il ferait. Il a rétabli ceux, vous tous, qui m'ont reçu, qui ont cru en moi. Il a fait exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait et ils lui ont fait ce que les Écritures avaient dit qu'il lui ferait. Il est déjà venu et vous ne vous en avez pas aperçu. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement simple. Ça va sans doute se passer de la même façon. Si bien que l'enlèvement va se faire un séjour et personne n'en aura connaissance. Alors, ne vous levez pas tout de suite, mais examinez ça une minute. Je vais terminer sans faute. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple que les jugements vont s'abattre et qu'ils vont voir le Fils de l'homme et alors ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé avoir telle ou telle chose? Est-ce qu'Élie ne devait pas nous être envoyé? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir un enlèvement? Jésus dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Dieu dans la simplicité, voyez? Maintenant, cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment profonds. Remarquez bien. L'enlèvement, c'est un si petit nombre qui formera cette épouse. Ce ne sera pas... Voyez comment les théologiens se sont figurés la chose. Ils ont des diagrammes, ils s'en vont. Ils montrent 10 millions de personnes qui seront enlevées ici. Tous les méthodistes, c'est un prédicateur méthodiste, c'est un pentecôtiste. Alors, ce sont tous les pentecôtistes qui iront. Ils n'y sont pas du tout. Il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville, quelqu'un qui sera porté disparu, c'est tout. Ils diront, eh bien, les autres n'en seront rien. Il y en aura un peut-être qui partira de la Géorgie. Il y en aura un qui partira de l'Afrique. Disons qu'il y aura 500 personnes vivantes qui seraient enlevées. Or ça, ce n'est pas le corps de l'Église, c'est l'épouse. Ce n'est pas l'Église, c'est l'épouse, voyez. L'Église ressuscitera par milliers, mais ça, c'est à la prochaine résurrection. Ils ne reviennent point à la vie jusqu'à les 1000 ans fussent accomplis. Mais quant à l'épouse, si 500 personnes quittaient la terre à cette minute même, le monde n'en serait rien. Jésus a dit qu'il y aurait un dans son lit, j'en prendrai un et j'en laisserai un. Ça, c'est la nuit. Il y en aurait deux au champ de l'autre côté de la terre, j'en prendrai un et j'en laisserai un. Et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de la même à la venue du Fils de l'homme. Réfléchissez. Tout se déroulera comme si de rien n'était. Un message fanatique circulera et puis tout à coup, quelque chose, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est jamais revenu. Il est probablement allé chasser dans les bois et il n'est jamais rentré. Et cet homme est allé quelque part. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que cette jeune fille, elle a dû se faire enlever. Vous savez, quelqu'un a dû s'emparer de cette jeune fille pour abuser d'elle. Il l'aura probablement jetée à la rivière. Elle n'était avec personne. 99%, si on peut dire, il n'y aura... qu'un sur 1 million qui ne saura jamais quelque chose, vous voyez, à moins que quelqu'un qui la connaissait dise « Cette fille a disparu, voyons, c'est à rien. » Comprendre, elle n'était jamais partie comme ça. Et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors, je n'ai pas le temps de l'approfondir comme ça. J'aurais voulu, il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse, tout ce qui est en vous comme matériau, ça ne donne qu'une cuillerie, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Là, qu'est-ce que tout ça, c'est né du péché. Mais ça en sera un nouveau, semblable à celui-là. Vous savez, si nous avions... Les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous vous dites ouvrir. C'est vrai. Vous voyez, ça ne sera pas de cette manière-là. Ce sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Ensuite, les jugements s'abattront. Le péché, les fléaux, la maladie et tout. Et les gens chercheront à mort, à grands cris, quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous alors que tu nous as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Il dira, il est déjà passé. Il vous en est fait pas aperçu. Vous voyez, Dieu caché dans la simplicité. Oh là là. Bien, tout ça est déjà passé. Et vous en êtes pas aperçu. Pourquoi? Les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. Il y a ce que la lune se couche en plein ou le soleil en plein midi. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Aussi seulement nous avions, j'ai ici des notes là-dessus, pour vous montrer ce que sont ces choses. Et de toute façon, nous allons les voir cette semaine, quand les seaux se briseront, vous voyez. Alors voilà le moment, c'est déjà passé et vous ne en êtes pas aperçus. Voyez, s'il n'en est pas ainsi, si l'ange du Seigneur veut bien briser ses seaux, rappelez-vous, c'est scellé par ce tonnerre mystérieux. Voyez? Alors quoi? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité d'un groupe de gens humbles? Voyez? Et la voix des signes de Dieu. Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire? Ça se passe comme ça s'est toujours passé. Une véritable parole de Dieu manifestée. C'est, ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la forme toute simple de la parole écrite de Dieu. Ils veulent y ajouter leur propre interprétation. Ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela. Vous voyez, oui, ça veut dire ceci. Écoutez, permettez-moi de dire ceci rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal construites, comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes. Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit dans les visions. Maintenant, si vous êtes bien réveillé, vous allez voir quelque chose, vous voyez. J'espère que je n'ai pas besoin de le tenir là, dans la main, pour vous le montrer. C'est ici. C'est ici. Nous sommes à la fin. Oui, monsieur, les cerveaux instruits passent à côté. Les simples visions, quand elles sont révélées dans une telle simplicité, ça passe complètement au-dessus de la tête des gens. Vous voyez? Parce que j'ai eu la vision que je vous ai racontée, que j'irai là-bas à la chasse. Vous savez, des gens se sont chopés à ça. Et Dieu me l'a donné là-bas, dans ce but précis, pour revenir avec l'interprétation complète et montrer qu'il s'agissait du départ de ma mère et ainsi de suite. Alors, je suis revenu et je l'ai annoncé d'avance et ça s'est déroulé exactement comme il l'avait dit. Vous voyez? Et pourtant, Jean, lui, il l'a déclaré ouvertement. Il a dit, « Je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et là, ses propres disciples ont dit, « Pourquoi les scribes disent-ils que l'Écriture enseigne qu'Élie doit venir premièrement? » Vous voyez? La simplicité de Dieu va, elle s'installe au-dessus de la tête des gens. Je vais encore prendre ceci ensuite. Je vais terminer. Je vais terminer avec l'aide de Dieu. Vous voyez? Regardez. Maintenant, lisons ça. Je suis désolé d'être toujours en train de vous dire que j'y vais. Et je suis désolé de vous retenir, mais dans quelques heures, nous reviendrons. Regardez, prenons une simple goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Vous vous êtes rassemblés ici ce matin dans un but. J'ai mangé chez toi, Charlie. Nelly, tu as cuisiné pour moi dans un but. Tout a sa raison d'être. Cette église a été érigée dans un but. Il n'y a rien qui soit sans but et sans cause. Maintenant, prenons une simple goutte d'encre. Vous m'entendez bien? Prenons une simple goutte d'encre et considérons-la. Qu'est-ce que c'est, une goutte d'encre? D'où vient-elle? Très bien. Prenons cette goutte d'encre-là. C'est, disons, que c'est de l'encre noire. Alors, cette encre a sa raison d'être. Elle peut écrire ma lettre de grâce pour me faire sortir d'un pénitencier. Elle peut écrire ma lettre de grâce et me faire sortir d'une cellule de condamné à mort. Elle peut écrire Jean 3,16 et sauver mon âme, si je le crois, n'est-ce pas? Ou alors, elle peut signer mon arrêt de mort, vous voyez? Elle peut me condamner au tribunal du jugement. Elle a sa raison d'être, pas vrai? Alors, examinons-la, cette petite goutte d'encre, pour voir d'où elle vient. Donc, c'est de l'encre. Elle a été fabriquée à partir de produits chimiques et tout. C'est devenu de l'encre et elle est noire. Si vous en laissez tomber sur vos vêtements, ça les tachera. Mais on a fabriqué un produit qu'on appelle un décolorant. Vous, les femmes, vous l'utilisez de l'eau de Javel, c'est du décolorant. Eh bien, si je prends cette goutte d'encre, je la laisse tomber dans un bassin plein de décolorant, alors où est passée l'encre? Voilà. Pourquoi? Le décolorant a été fabriqué, inventé et fabriqué de produits chimiques qui, ensemble, vont décomposer la couleur à tel point qu'on ne puisse plus la retrouver. Or, le décolorant est en partie constitué d'eau. L'eau, c'est H2O, ce qui est l'hydrogène et l'oxygène. Et les deux, l'hydrogène et l'oxygène, sont tous les deux des explosifs dangereux. Et puis, en fait, l'hydrogène et l'oxygène sont des cendres. C'est bien ce qu'ils sont, c'est vrai, des cendres chimiques, simplement des cendres chimiques. Maintenant, mettez-les ensemble, là, et ça vous donne de l'eau. Mais séparez-la, et vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène, et continuez à remonter à la source comme ça. Maintenant, pour aborder ceci, on va prendre, je ne suis pas en mesure, maintenant, il se peut qu'il y ait des chimistes ici. Je veux le dire, parce qu'il y aura des chimistes qui écouteront ceci, je ne connais pas les formules, mais je veux vous l'expliquer ça à mon humble manière à moi, en mettant ma confiance en Dieu qu'il s'y révélera. Regardez, je laisse tomber cette goutte d'encre dans du décolorant. Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, la tache noire a disparu. Inutile d'essayer de la retrouver, elle a disparu. Vous ne la reverrez plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et vous ne voyez rien immergé de là? Non, comment ça? Parce qu'elle s'est décomposée. Or, la science dirait qu'elle s'est retournée à ses acides originaux. D'où viennent les acides, voyez? Eh bien, vous dites qu'ils viennent de certaines choses. Très bien. Vous direz, par exemple, ce sont les vapeurs qui ont produit les acides. D'où viennent les vapeurs? Eh bien, elles ont été produites par les molécules. D'où viennent les molécules? Des atomes. D'où viennent les atomes? Les électrons. Et eux, ils viennent d'où? De la lumière cosmique, vous voyez? Voilà bien au-delà des conclusions de la chimie, là. Et si c'est une substance et une création, elle doit venir d'un créateur. Donc, si vous êtes assis ici, ce n'est pas par hasard. Si je vous retiens ici jusqu'à midi et demi ou une heure, ce n'est pas par hasard. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Vous voyez? Il y a une raison à ça. Si vous croyez, il y a une raison à ça. Si vous ne croyez pas, il y a une raison à ça. C'est comme pour cette encre. Maintenant, analysons ça. Maintenant, pour commencer, disons, après être arrivé, on va remonter jusqu'aux molécules. Maintenant, on a pris la molécule, je vais le dire, la molécule numéro 1, multipliée par la numéro 9, multipliée par la numéro 12. Si on avait pris la 11, ça aurait donné du rouge, mais il fallait que ce soit la 12 pour obtenir du noir. Et puis, on va descendre jusqu'à l'atome. C'était l'atome 96 multiplié par 43. Ça donne l'atome 1611. Et si on avait eu 1612, ça aurait peut-être donné du violet. Voilà. Vous continuez comme ça à décomposer. Ça montre qu'il y avait quelque chose là-bas au départ. C'est une simple question de bon sens. C'est une création. Il lui faut un créateur. Et elle est sortie d'un créateur et ensuite, elle a été déterminée et placée dans ces différents... Oh, la science ne peut pas prendre l'atome B16 12 fois, 14 fois ou un nombre de fois quelconque là, comme ça, pour former ça. Et il a fallu Dieu pour faire ça. Ensemble, une fois que ça a été ramené à un ensemble d'atomes, à ce moment-là, la science peut commencer à y toucher, puis ça prend la forme de molécules et ça commence à y avancer et à voir un peu plus clair. Ensuite de ça, se transforme en quelque chose d'autre et bien ça devient un produit chimique. Et alors, il les mélange ensemble. Maintenant, quand l'homme, avant qu'il pêche, je termine, mais ne manquez surtout pas ceci. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu, il a traversé un grand abîme et il s'est placé ici du côté de la mort et il s'en est allé. Aucun moyen de revenir. C'est exact. Il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors, à ce moment-là, Dieu a accepté un substitut qui était un agneau ou un bouc ou une brebis ou quelque chose qui devait verser son sang. Adam en a témoigné ou Abel en a témoigné de l'autre côté de l'abîme. De ce côté-là, il est un fils de Dieu. Il descend de Dieu. Il a la terre pour héritage. Il a autorité sur la nature. Il peut créer par la parole. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un créateur. Il descend de Dieu. Mais quand il est passé de l'autre côté, il s'est séparé de sa filiation. Il est pécheur par nature. Il est tombé aux mains et sous la domination de Satan. Et Dieu a accepté un sacrifice, la substance chimique du sang, mais le sang des taureaux et des boucs n'ôtait pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Si j'ai une tache rouge sur la main et que je la recouvre de blanc, la tache rouge est encore là, vous voyez? Elle est encore là. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'était le sang de son propre fils. Ainsi, quand notre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. La coloration du péché retourne alors qu'il passe par les intermédiaires et remonte le cours du temps jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur Satan sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Qu'est-ce qui est arrivé au fils? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Il se tient de l'autre côté de l'abîme sans aucun souvenir de péché à sa charge. Il n'y en a plus. On ne peut plus avoir aucune tache de décolorant nulle part. Il est libre. Alléluia! Exactement comme cette eau de Javel ou cette encre ne pourra plus jamais être de l'encre parce qu'elle a été dissoute et qu'elle est retournée à ses origines. Et quand un péché confessé, qui a été plongé, quand un homme ou une femme ont été plongés dans le sang de Jésus-Christ, ça a pour effet de tuer tous les symptômes. Et chaque molécule de péché retourne au diable et il reste jusqu'au jour du jugement où sa destinée éternelle sera d'être jetée dans l'étang de feu. L'abîme est comblé, alors il ne reviendra plus jamais à la mémoire. Et l'homme se tient là justifié en tant que fils de Dieu, la simplicité. Moïse, sous le sang des taureaux et des boucs, avec sa confession de foi dans la parole de Dieu, Dieu a pu prendre cet homme tout simple et mettre ses paroles dans sa bouche. Et il a prouvé qu'il était le serviteur de Jéhovah, car il a pu aller là alors que Jéhovah lui a parlé par vision. Il est allé là, il a étendu les mains vers l'Orient. Maintenant, souvenez-vous, Dieu lui avait parlé, c'est la pensée de Dieu. Dieu utilise l'homme. Dieu lui avait parlé, c'était juste. Il a dit, « Étends cette verge qui est dans ta main vers l'Orient et dit, « Des mouches! » Moïse, sous le sang de ce bouc, de cette brebis, il est allé, il a pris ce bâton, il a tendu la main vers l'Orient. Ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait des mouches. On n'a pas entendu une seule mouche. Il est reparti, c'est déjà prononcé, c'est une pensée. Maintenant qu'elle a été prononcée, elle est exprimée. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Elle est sortie des lèvres d'un être humain, d'un saint homme, qui était sous le sang d'un taureau ou d'un bouc. Et puis tout à coup, une mouche verte se met à volter. L'instant d'après, il y en avait 5 livres par mètre. Qu'est-ce que c'était? C'était la parole de Dieu prononcée par Moïse, le Créateur. En effet, sous le sang, il se tenait dans la présence de Dieu et ses propres paroles n'étaient pas sa parole à lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle est la position de l'Église, là? Qu'il y a des grenouilles, alors qu'il n'y avait pas une seule grenouille dans le pays. Au bout d'une heure, il y en avait une épaisseur de 10 pieds. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu, le Créateur, qui se cachait dans un homme tout simple. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Si le sang d'un taureau ou d'un bouc, utilisé comme décolorant, alors qu'il ne peut que couvrir, a pu mettre un homme en position de prononcer la parole créatrice de Dieu pour créer des mouches, pourquoi vous achoperiez-vous au fait que le décolorant du sang de Jésus-Christ puisse créer un écureuil ou autre chose par la parole? Ne faites pas ça, vous achopez pas la simplicité. Croyez qu'il reste toujours Dieu. Oh là là! Le pardon du péché. Oh, comme j'aimerais pouvoir. Et puis dans Marc 11, 22, si vous êtes à cette montagne au toit de là et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez, que vous avez dit ce qui arrivera, vous le verrez s'accomplir. Oh, j'ai encore 3 ou 4 passages. On va vraiment être obligé de les laisser de côté. Dieu caché dans la simplicité. Oui, bien, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Quand Dieu fait une déclaration, il ne peut pas mentir. Il a fait la promesse, voyez. Il se cache dans la simplicité. C'est tellement simple. Les gens instruits, les érudits disent, c'est de la télépathie ou quelque chose comme ça, vous savez. Dieu peut remonter rapidement le cours du temps et vous dire exactement ce qui est arrivé dans le passé, vous dire exactement ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez dans l'avenir. Encore là, c'est grâce au décolorant de Jésus-Christ qui peut prendre un pécheur et le blanchir pour le faire entrer là dans la présence de Dieu. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez, ça sera accordé. Celui qui croit vraiment en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comment pouvez-vous me condamner ou vos propres lois me condamneraient-elles parce que ceux à qui est venue la parole de Dieu, les prophètes, ne les avez-vous pas appelés des dieux? Alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Ils ne le voient pas. Maintenant, Église, dans les messages qui viendront à partir de ce soir, ne manquez pas de le voir, voyez? Voyez dans quel jour nous vivons. Et souvenez-vous, le sang de Jésus-Christ emporte les péchés tellement loin de vous que Dieu n'en a même plus souvenir. Il enlève toute tache. Le péché avait laissé une tache cramoisie. Il l'a lavée et rendue blanche comme neige. Alors, devant le trône, je me tiens accompli en lui. Oh là là, comment puis-je être accompli? Comment puis-je être accompli? C'est à cause du sang. Ce n'est pas moi, mais c'est le sang qui est là entre Dieu et moi. Je l'ai accepté, il l'a placé, je suis un pécheur, mais lui, il est Dieu. Mais cette substance chimique est là entre moi, la substance qui extermine le péché. Alors Dieu me voit aussi blanc que l'eau qui est dans le décolorant. Mon péché est parti, il ne peut même pas se rendre jusqu'à lui. Et placé parce qu'il y a un sacrifice, il y a un sacrifice là où est notre foi, pour croire la sainte parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est tout. Le prendre en ce moment, Dieu se cache dans la simplicité, dans un homme petit groupe, mais un seul jour, il va se manifester comme il l'a toujours fait par le passé. L'aimez-vous? L'aimez-vous? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? J'espère et j'ai confiance que ce message produira ce qu'il était destiné à produire, qu'il vous amènera au point où vous ne chercherez pas les choses qui en mettent plein la vue, ou quelque chose, quand vous voyez Dieu dans sa grandeur, vous voyez combien c'est humble. Vous voyez, quand Élisée était là-bas dans cette caverne, il est passé de fumée du sang, du tonnerre, des éclairs, et vous voyez toutes les sensations du genre, comme on en a eu du sang sur le visage et sur les mains, et des sensations et tout, ça n'a pas troublé ce prophète. Il est resté étendu là jusqu'à ce qu'ils entendent une petite voix tranquille. Qu'est-ce que c'était, la parole? Alors il s'est couvert le visage, il est sorti, vous voyez? C'était réglé. Souviens-toi, mon ami, ne cherche pas les grandes. Vous dites, Dieu, il parle de grandes choses glorieuses. Il viendra un temps où il se passera ceci, cela, autre chose. J'espère que vous savez de quoi je parle. Voyez, de grandes choses glorieuses, voyez. Ou quand ça s'accomplira, ce sera grand et glorieux comme ceci. Et ce sera si humble que vous passerez complètement à côté et vous continuerez comme si ce n'était rien. Et vous regarderez en arrière, mais telle chose, voyez, ça vous aurait passé au-dessus de la tête. Vous ne l'aurez jamais même vu. Vous aurez passé à côté, vous voyez, c'est tellement simple. Dieu vit dans la simplicité, vous voyez, pour se manifester dans la grandeur. Qu'est-ce qui fait sa grandeur? C'est parce qu'il peut se faire simple. Un grand homme important ne peut pas se faire simple. Il lui faut être un dignitaire, vous voyez, mais c'est qu'il n'est pas encore assez grand. Quand il devient assez grand, quand il s'abaisse comme ceci, vous voyez, il peut s'humilier. Comme le disait ce brave saint là-bas à Chicago, cet homme est monté sur l'estrade avec toute son instruction et tout. Il a dit, il est descendu abattu, la tête baissée. Il est reparti vaincu. Il a dit, s'il était monté de la façon dont il est descendu, il serait descendu de la façon dont il est monté. Et c'est bien vrai, voyez. Humiliez-vous. Soyez humble, c'est tout. Ne cherchez pas à vous distinguer. Aimez Jésus, c'est tout. Dites, Seigneur, s'il y a quelque fraude dans mon cœur, s'il y a quelque chose de faux, Père, je ne veux pas être comme ça, ôte-le. Je ne veux pas être comme ça. Je vais être compté parmi eux ce jour-là, Seigneur. Je vois ce jour qui approche. Vous voyez les seaux là qui commencent. Si Dieu veut bien nous les ouvrir, souvenez-vous, lui seul peut le faire. Nous comptons sur lui. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, je pense que notre pasteur a un mot à vous dire, ou plutôt à vous dire, avant que nous nous retrouvions cet après-midi. Je pense que la réunion, le service de chant sera à 6h30. Pasteur, il va commencer à 6h30. Les portes s'ouvriront à 6h. Le service de chant commencera à 6h30. Et si Seigneur le veut, je veux parler ce soir sur le sujet du livre scellé de sept sceaux. Ensuite, lundi soir, du cavalier sur le cheval blanc. Mardi soir, le cavalier sur le cheval noir. Mercredi soir, le cheval grisâtre, le cheval d'une couleur pâle, et le cheval cavalier sur le cheval roux. Et ensuite, on abordera le sixième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et ensuite, dimanche soir, pour dimanche matin prochain, peut-être un service de grison. Je ne sais pas. Maintenant, rappelez-vous, nous nous sommes consacrés au Seigneur, nous-mêmes, avec cette Église, au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris une heure de trop. Vous me pardonnez. Je ne voyais pas, je n'ai pas fait exprès, mais voyez, je suis seulement avec vous pour une semaine. Ensuite, je vais encore repartir et je ne sais pas où j'irai, là où il ira, conduira simplement. Alors, je veux mettre à profit toutes les minutes que je peux parce que je veux passer l'éternité avec vous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Frère Neville.